Des tournois exclusivement en ligne, des bouquins sur Street Fighter, de la Next Gen et plein d'actu. C'est le pif de l'actu, chez édition, on pourrait dire. Et c'est parti. Et bienvenue dans le pif de l'actu. Nous sommes actuellement le 13 juin 2020. La fine équipe, ou presque, est réunie autour de ce Mumble pour enregistrer, évidemment, toute l'actualité du jeu de baston qui s'est écoulé. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, donc on a dû un petit peu faire les fonds de tiroir, mais bon, on va s'en sortir. Il y a Sheik qui est là aujourd'hui. Bonjour, Sheik.
Wesh.
Il y a Oni qui est là. Bonjour, Oni.
Salut.
Il y a évidemment TMDJC, l'ancêtre, l'ancien, le doyen.
Bonjour.
Non, c'est bonjour qu'il fallait faire.
Bonjour.
Évidemment, le Gassi est aussi avec nous.
Bon, est-ce que tu préfères faire de l'argent tout de suite et devenir...
Okay, moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Bisous.
Allez, c'est parti pour les actualités. Sheik, c'est toi qui ouvre avec un petit DLC, mais qui en a le nom, mais qui n'en a pas le prix, si
c'est
j'ai
ça,
bien compris.
C'est un gros DLC. Du coup, ouais, en guise de seconde season pass, NRS a proposé un gros update à son jeu, dans la forme de Mortal Kombat 11 Aftermath. Et du coup, on a eu le droit à un épilogue à son mode histoire que j'ai eu la chance de pouvoir faire sur YouTube. Oui, pour d'autres raisons, je vais expliquer un peu, quoi. Mais qui reste quand même assez sympa, de fin, comme à la Injustice 2. Et une qui tease un peu le futur lore de la série. Aussi, dans l'Aftermath, trois nouveaux persos, Shiva, Fujin, qui n'était pas apparu dans un Mortal Kombat depuis 10 ans, et en guest, dans un timing politique et social que même Verhoeven n'aurait pu imaginer, Robocop.
Donc, justement, Robocop s'oppose à la violence policière.
Exactement.
Does it though? Je suis pas...
Oui, bien sûr.
Faudra que je le revoie, mais j'avais pas tellement le souvenir.
C'est anti-système, Robocop.
Oui,
en
très,
vrai,
c'est très, très anticapitaliste.
Et pour moi, les méchants méritent une balle dans les couilles.
Voilà.
Ouais. Oui, ça va avec la brutalité policière, on va dire. Oui. ça va complètement d'accord.
Mais
oui,
en France, on vise plutôt les yeux et les mains, mais ça, c'est un autre débat après.
Voilà. Ouais. Puisqu'on parle de politique et de sondage, je vais prendre la main pour nous
attends,
parler.
Juste dire que Robocop, il défonce dans le jeu. C'est tout ce que j'ai à dire.
Il est pas trop
c'est un
mal,
robot, il est fini.
Ah non, mais franchement, il est trop bien fait. Il y a plein de références à tous les films, voire les séries. Ils ont été tapés partout. C'est franchement, le jeu, c'est un véritable kiff.
Est-ce qu'il est plus ou moins fort que le Terminator? C'est la seule vraie question.
C'est différent.
Franchement, c'est pas le même personnage du tout. Moi, j'aime vraiment beaucoup les deux, mais je suis tellement content de pouvoir faire un Robocop versus Terminator, j'avoue.
Ah, j'avoue. Ouais.
Je sais que j'avais quand même une question. Il est vendu 40 balles, ce DLC,
c'est
on est
ça,
d'accord.
Ouais, il est vendu
un
40 balles.
Un mode histoire balles. Et trois persos.
Trois persos, quelques cinématiques. Et
c'est pas la version skins, qui rajoute les friendships aussi?
Si, ouais, mais les friendships sont gratuites, comme l'équilibrage, comme les stages et les stage fatality. Ça, c'est gratuit, en fait.
Mais tu peux pas tout acheter d'un coup?
Bah si,
c'est-à-dire acheter tout le...
Enfin, non, mais y a pas une version... ils ont pas fait...
Ils vont sortir une version GOTY complète.
Oui, bien sûr, c'est
évident. Mais on peut quand même dire que MK11, ça devient le smash du film d'horreur action.
Ah bah c'est ça depuis trois épisodes, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ils ont pris une position qui est inverse à Nintendo, mais qui marche... Au final, tout aussi bien.
Non, mais moi, j'attends vraiment le moment donné où ils vont remplacer, je ne sais plus comment s'appelait ce jeu déjà, Nathan, ce jeu avec que des
je persos. Je vois duquel tu parles, mais je ne me souviens plus du tout du nom.
Oui. Ouais, c'est ça. Je rêverais qu'ils fassent ça pour de vrai. Moi, j'ai envie de revoir Freddy Krueger. Ce serait génial de pouvoir prendre tous les musts des films d'horreur pour se mettre sur la tronche.
Mais d'ailleurs, on va peut-être pouvoir en parler. J'ai déplacé la news, Legacy. Je vais te donner la main du coup. C'est que une des choses qui permet à Mortal Kombat d'avoir tous ses guests facilement, c'est que c'est souvent des guests de films d'horreur qui appartiennent à Warner Bros. Société éditrice donc de Mortal Kombat.
Et quand c'est pas Warner Bros. Directement, c'est des sous-sociétés qui ont été rachetées depuis par Warner. C'est les grands trucs. C'est comme Disney en fait. C'est le problème en fait de ces grosses structures qui ont tous les droits.
Et donc, mais ça pourrait bientôt s'arrêter, n'est-ce pas, Legacy? Car on a appris ça aujourd'hui, il se passe quelque chose là.
Ah bah oui, AT&T, l'un des pires réseaux de télécommunications au monde, considère de vendre la branche vidéo, jeux vidéo de Warner Bros. Il faut savoir donc que AT&T, qui a racheté donc Warner Bros, qui comprend donc les films, DC Comics, la chaîne HBO, j'en passe des meilleurs, et à 200 milliards de dettes. Excusez-moi, pour moi, c'est tellement des chiffres qui ne veulent plus rien dire. 200 milliards de dettes, excusez-moi, voilà. On est
sur, dette.
De dettes, voilà. Et donc, elle considère vendre donc, cette section de Warner Bros. Pour aller chercher, donc, elle en espère 4 milliards. Pour l'instant, sur le banc, ce serait Electronic Arts et Tech2. Donc, pour l'instant, pas vraiment de news concrète là-dessus, mais ça impacterait des jeux comme les jeux Injustice, Mortal Kombat, les jeux Batman par Rocksteady, etc. Donc, c'est des temps un petit peu difficiles, mais vu le succès de Mortal Kombat en termes de nombre de ventes de jeux, je ne suis pas inquiet pour eux.
Bah, moi, ça m'inquiète un peu dans le sens où, justement, c'est du gros succès. Et en gros, je serais... Tu vois, Electronic Arts, c'est bien le genre à dire « Ah non, mais vous allez me faire un Mortal Kombat 12 tout de suite, là, pour dans 2 ans, parce qu'on a un bilan financier à faire rapidement. » Alors que, justement, il me donne la sensation d'avoir toujours eu un peu la liberté qu'il voulait, parce que, de toute façon, ça cartonnait. Donc, il prenait le temps qu'il voulait pour faire les jeux, il faisait ce qu'il voulait, et c'était bien, tu vois. Donc, je ne suis pas sûr.
Je trouve qu'ils sortent quand même des jeux à un rythme biannuel, hein. Un Injustice succède à Mortal Kombat.
Bah justement,
etc.
Plus trop là. Pour Mortal Kombat, ils ont pris beaucoup plus de temps et ils ont dit qu'ils partaient sur un autre type de jeu, voire un reboot de Mortal Kombat. Donc,
à voir. Mais dans tous les cas, oui, c'est sûr que ça fait un grand changement. Ça risque de faire un grand changement dans le visage vidéoludique.
Alors,
énormément de fortes licences.
Pour continuer dans le changement, je vais prendre la main. Il y a une restructuration chez Arc System Works. Alors, on va vous épargner les détails de qui va faire quoi, etc. En gros, la boîte s'est un peu réorganisée comme pour ressembler à une grosse boîte, finalement, puisque maintenant, il y a des gens à des positions dont ils ont un titre, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Donc, ça y est, c'est vraiment une grande boîte. voilà. Mais pourquoi on vous en parle ? C'est parce qu'en fait, il y a le chose la plus intéressante, c'est Mori, le créateur de BlazBlue. Donc, il n'est plus à la direction créative, puisque c'est Ishiwatari qui est à la direction créative. À la place, il passe au côté marketing et son boulot sera de marketer Arc System Works en général. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit le monsieur qu'ils vont envoyer maintenant pour aller négocier des contrats avec des gens qui ont des licences et qui veulent un jeu de baston fait par Arc System Works. Donc, s'il y a déjà ça. Les autres nouvelles concernant la boîte, c'est que Arc System Works repousse Guilty Gear Strive à 2021, citant le Covid, mais aussi d'autres choses, et notamment le résultat du sondage post-bêta qui ont été rendus publics dans un exercice de transparence qui, on va dire, est assez étonnant de la part d'un développeur japonais comme ça, parce que Capcom l'a jamais fait, par exemple. Et globalement, on s'y attendait un petit peu, mais globalement, tout ce qui est de l'ordre des graphismes, de la présentation, ça, tout le monde kiffe. Tout ce qui est de l'ordre du gameplay, c'est un peu moyen au niveau réception. Et tout ce qui est de l'ordre des lobbies et du online, c'est pourri. Donc voilà, ils sont prévenus de ce qui va pas. Cependant, dans les réponses qu'ils font, c'est un petit peu « Oui, on prend note, mais vous n'avez pas encore tout à fait vu exactement ce qu'on veut faire, etc. » Bon, bref, on ne va pas changer, en gros. Et comme on sous-entendait, comme on pensait, le jeu, il est en bêta. S'il est en bêta, ils ne vont pas revoir le système de lobby ou l'orientation du gameplay ou quoi que ce soit, en fait, comme ça. Par contre, un truc qu'ils vont probablement revoir, c'est tout ce qui est UI et tout ce qui est interface, puisque apparemment c'est vraiment là où il y a le plus de gros soucis. Donc voilà, donc on ne devrait pas avoir de grosses différences entre Guilty Gear Strive bêta qu'on a testé et le jeu final. En tout cas, je ne pense pas. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce retour d'Arc System Works ?
C'est la moitié du chemin est fait, mais c'est la deuxième moitié qui intéressait tout le monde. Que bon, tous les gens un peu sérieux voient que le jeu n'est pas intéressant et se Street Fighter 5 voilà, écoute, ils vont changer la cosmétique, ils vont mettre du déo sur le caca, mais ça puera toujours à la fin, quoi.
Non, moi, je pense qu'ils sont entre guillemets sur la bonne voie, dans le sens où, ok, actuellement le jeu est pas bon, mais bon, ils ont publié les résultats du sondage en disant voilà, vous avez pas aimé, on va essayer de faire mieux. Le simple fait qu'ils le reconnaissent et qu'ils disent ok, c'était pas un bon essai, on va faire mieux. Pour moi, c'est une bonne chose parce que je connais plein d'éditeurs, quasiment tous les autres, qui auraient juste ignoré les retours et qui auraient sorti le jeu comme ils entendaient le sortir. Donc, le fait d'écouter et de montrer qu'ils écoutent, moi, c'est un bon signal pour moi.
ou de faire certaines modifications qui plaisent à certains joueurs et pas à d'autres, et on en connaît quelques-uns, mais moi je partage assez l'avis de Donny. Il faut voir ce que ça va donner derrière. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour de vrai qu'il soit, enfin qu'il fasse entre guillemets amende honorable en disant ok, on a sorti un truc, ça vous a pas plu, on voit ce qu'on peut faire.
Mais en fait le truc c'est que vous acceptez ça parce que c'est un éditeur japonais. Ce serait un éditeur occidental. Mais si, l'éditeur occidental ont ce truc-là de dire ok les gars on a fucked up, on va recommencer, on va vous écouter.
Prendre un exemple.
Ils ont cette remise en question. Mais là, c'est juste parce que c'est un éditeur japonais qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ils le font. Bravo, incroyable.
Pour le coup, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le jeu de combat, tu te rappelles peut-être de Star Wars, c'est Battlefront 2, quand il est sorti. Ouais. Dès la bêta, les gens ont dit non, mais les gars, vous ne pouvez pas le sortir comme ça. Le jeu est sorti comme ça parce qu'il y avait tout un système de lootbox et d'expérience qui faisait que tu devais grinder le jeu pendant des heures pour juste débloquer un personnage. Ils l'ont sorti quand même, malgré les critiques des joueurs. Ils se sont fait défoncer sur Reddit, sur tout, partout. Et ils ont fini par faire machine arrière, entre guillemets, parce qu'ils ont modifié certains trucs, mais ça a été une bataille énorme.
Oui, mais tu prends le cas le plus extrême de chez
Electronic Arts. Oui, c'est un cas extrême. Oui.
Voilà. Mais en règle générale, je prends les développeurs occidentaux, ils sont très à l'écoute de leurs joueurs, quand ils merdent, ils le disent, et quand il faut fixer les choses, ils sont là. Mais là, comme je dis, c'est juste parce que j'ai japonais.
Non, je suis pas d'accord, t'as qui comme éditeur en tête, là?
Là, je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir? Là, tu me prends de court, j'aurais pas de truc. Mais...
Non, parce que, en fait, juste pour aller.
Bloodstain.
Sur quel jeu?
Bloodstain, c'est
le jeu. Le jeu Bloodstain, voilà, il est sorti. Le graphisme ne plaisait pas.
Bloodstain, déjà, c'est un jeu indé.
Travail.
Bloodstain, c'est un jeu indé, c'est pas un jeu sorti par Activision ou par Electronic Arts.
Non, mais on peut prendre KOF 14, par exemple, comme exemple.
On peut prendre FF14, on peut prendre, qui en plus est un jeu japonais. Voilà.
Mais non, mais justement, c'est jeux japonais à nouveau. Mais parce que là où, entre guillemets, je suis d'accord, c'est que t'as beaucoup de jeux indés, mais genre beaucoup, où effectivement, ils sont proches de leur communauté parce que tout simplement, elle est beaucoup plus petite. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude qu'un gros éditeur comme ça, parce que Arxis, c'est quand même un gros éditeur aujourd'hui, se pointe et se positionne comme ils sont positionnés. Juste, on le note, mais ça n'a. Enfin, en tout cas, je sais pas toi ce qui te fait dire ça, mais moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient japonais ou pas. En fait, pour de vrai, je m'en contrebalance.
On va s'arrêter là pour le débat, puisqu'il faut qu'on continue dans les actus, mais ce sera intéressant. Je pense qu'ils ont dit qu'ils referaient d'autres posts de blog sur l'évolution du jeu, etc., etc. Donc, on pourra en reparler la prochaine fois. On fera peut-être une chronique, en tout cas un débat tous ensemble là-dessus. Et puisqu'on parle entre Amérique et
Je pourrais alimenter par rapport à Capcom là-dessus, parce que j'ai quelques infos là-dessus qui peuvent être intéressantes.
Ah, parfait. Pour rester entre l'Amérique et le Japon, entre tradition et modernité, Shake Power Rangers.
Quelle intro, putain. Quelle intro.
Je suis désolé.
Zéro pression.
Qu'est-ce qui se passe dans Power Rangers? Il y a une saison 3
C'est ça, ouais. C'est malgré s'être fait sucrer un spot à l'Evo Online, Power Rangers Battle for the Grid continue un peu son chemin. On aura le droit à une saison 3. Mm-hmm. Donc, 3 persos au programme, 2 officialisés. Je suis un peu triste que Flashou soit pas là parce qu'il aurait pu raconter un peu quelque chose, des trucs là-dessus, mais...
Bon, c'est des mecs en spandex, quoi.
C'est ça, ouais. Déjà, t'as le Wolf Ranger violet de Jungle Fury, Robert James.
Rien que le nom, il est délire.
la Ranger rouge de Super Samurai, Loren Shiba. Okay. Et du coup, un dernier perso teasé qui serait Scorpina, une des méchantes de la première saison. Dont j'ai absolument aucun souvenir, mais bon, apparemment, elle roulait des pelles à Goldar au Japon, sur Super Sentai, et que la version US aurait jugé ça trop horny, donc il l'aurait supprimé. Mais voilà, quoi.
D'accord. Donc, on rigole de ça, mais t'as des fans de Power Rangers qui sont ouf, hein, du choix des persos, donc je trouve ça rigolo, moi. C'est
ouais,
bien.
Non, ouais, qui sont, ouais. Le choix plaît, quoi, ouais. Le choix plaît, apparemment. Donc, bon, tant mieux, mais ouais, tant c'est... Je suis un peu perplexe sur le choix des persos, mais bon, si ça a l'air de plaire, on va pas juger les gens sur leur kink.
Moi, j'ai posé la question à Will Cook, qui m'a dit que c'était pas vraiment du Sentai, puisque c'était Power Rangers, donc...
Bon, et ben dans ce qui est, pour faire une superbe transition, dans ce qui n'est pas vraiment un tournoi, et ben ce sont les Pro Tours de cette année qui continuent de se casser la gueule, puisqu'on est passé de Dragon Ball Z World Tour, de Tekken World Tour et de Soul Calibur World Tour à... rien, puisque Bandai Namco a annoncé annuler tous les Pro Tours pour l'année 2020.
Allez.
Ils essayent même pas de le faire en ligne ou quoi que ce soit. C'est terminé, c'est foutu, c'est dead. Voilà, ils
mais,
ont
mais
probablement
je comprends pas,
raison.
Nathan, il y a du rollback dans Tekken 7.
Ah là là, un autre débat. Bref, par contre, un qui ne veut pas lâcher l'affaire, c'est bien évidemment Capcom, n'est-ce pas, Oni ?
C'est ça, Capcom, ils veulent quand même garder la Twitch Money, coronavirus ou pas. Donc, bah, ils ont déporté tout leur Capcom Pro Tour uniquement online, alors qu'avant, c'était juste une petite partie des qualifications. Donc là, ils ont un peu refait toutes les règles. Ils ont créé trois circuits, l'Europe, Amérique et Asie, en divisant chaque continent par région. Donc, il va y avoir en tout, ça a commencé, les qualifs ont commencé le 6 juin dernier et vont se poursuivre jusqu'à fin novembre. Et donc, en gros, il y a plus ou moins un tournoi par week-end. Avec une pause pour chaque mois, donc ça fait 3 ou 4 tournois par mois en moyenne. Ce qui va nous donner à la fin de l'année 18 joueurs qualifiés en ligne, plus le gagnant de l'édition 2019 qui était IDOM, plus un fan favorite, c'est-à-dire un joueur qualifié
choisi,
ouais, de l'édition 2019, donc sur les 32 joueurs de l'édition 2019 qui aura le vote du public pour participer dans l'édition 2020. Ce que ça veut dire, c'est que les finales qui devaient se dérouler à Paris fin 2020, moi j'étais très content de ça, oui. Elles ont été annulées et reportées pour revenir aux US début 2021. Donc on n'aura pas notre finale du CPT à Paris. Et donc oui, comme je disais, les qualifications ont commencé le 6 juin. Et si ça vous intéresse, que vous vous dites que ça y est, c'est votre moment, c'est en ligne, vous pouvez gagner. Les qualifs pour l'Europe de l'Ouest, qui comprennent la France, auront lieu le 18 juillet et le 10 octobre prochain. Et il faut s'inscrire sur le site de Capcom, comme d'habitude.
Alors, n'oubliez pas de commander sur eBay votre lag switch personnalisé.
Exactement, voilà.
Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas déjà, c'est, je crois, hein, je peux dire de la merde, mais t'es pas obligé de streamer pour pouvoir faire les matchs.
Oui, donc tu peux prétendre que tu es quelqu'un d'autre, oui.
Non, mais en gros, t'es chez toi, t'as Luffy, t'as machin, t'as les maîtres de chaque perso en France, et tu sais que tu vas jouer contre un mec, tu lui mets le pire match-up en face, en fait.
C'est pas bête.
Et puis si tu commences à perdre, tu commences à télécharger Henry Okita my husband is not home .jav.1080p et c'est bon, t'as gagné.
Pour l'instant, là, les qualifs, au moment où on se parle, les qualifs ont commencé depuis une semaine, donc il y a déjà eu des tournois le week-end dernier. Pour l'instant, personne ne s'est plaint de lag, mais je serais pas étonné qu'un Américain nous pète un câble ou un Mexicain... viennent nous dire ouais mais on a été matché pas comme il faut et ça a pas marché, je veux faire rejouer mon match. On verra bien. Ouais.
Il y a eu un tournoi de Smash Bros organisé par le pugilat des étoiles, je crois, ou en tout cas ils ont fait un compte rendu sur le pugilat où ils racontaient la galère de ouf du tournoi avec les gens qui se plaignaient du lag et que donc en fait ils disqualifiaient les gens qui laguaient et au fur et à mesure donc les gens prenaient des photos pour confirmer que leur Switch elle était bien branchée en Ethernet et ça prenait des proportions assez incroyables. Donc bon futur les tournois en ligne en tout cas, hein. Ouais, je crois vrai. Que
alors sachant là moi j'y reviendrai tout à l'heure sur l'histoire de Capcom, mais c'est très important pour eux que le Capcom Pro Tour continue. C'est vraiment un choix stratégique et enfin le coronavirus a quand même eu pas mal d'incidences chez Capcom et ils font des choix de réorganisation de manière à ce que Street 5 dure un peu plus longtemps.
Ah bah ça, on va en parler justement juste après. Un perso qui revient dans Guilty Gear Strive aussi, une annonce d'aujourd'hui de Gassi, comme quoi on est en plein dans l'actu, au cœur de l'actu, voilà. Le pif de l'actu, c'est la folie. Quel perso revient ?
Ah bah là c'est Ram Lethal, hein. Voilà, là ils se sont dit on s'en fout, les anciens persos ils n'existent pas, voilà, les testaments, les machins, les trucs, on s'en fout. On va sortir le casting de base de Sign, donc attendez-vous à des Bedman, des machins, des trucs. Honnêtement, je trouve que c'est le trailer le plus faible de tous les trailers d'annonce.
C'est pas faux.
Guilty Gear Strive. Il y a pas de ouf. Il y a pas d'impact. Il y a pas d'effet. Le trailer est très moyen. La musique est pas ouf. Mais enfin, on a déjà plus Bullshit Blazing.
Ça c'est.
c'est déjà mieux. Mais voilà, le perso revient, des bandages rouges sur le bras et la jambe, et puis basta.
Apparemment, elle est quand même assez populaire parce qu'on en a pas parlé dans le compte rendu du sondage de Guilty Gear Strive, mais il y avait un sondage de quels sont les persos les plus populaires, et en gros. Au Japon, c'était Bridget et partout ailleurs, c'était Bacon, comme quoi les priorités sont en ordre. Mais Ram Lethal était assez haute aussi comme personnage favori, mais après, il y avait beaucoup de persos de X-Herd, logiquement, qui était dans le top puisque c'est la version la plus récente du jeu. Donc c'est pas si étonnant quelque part.
Et puis il y a plein de joueurs qui ont découvert aussi la série avec ce jeu.
Bien sûr. Et parmi les joueurs qui découvrent des trucs, eh ben, peut-être que vous avez découvert Killer Instinct il n'y a pas si longtemps. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à aller regarder le documentaire Fight On sur Killer Instinct, qui est en gros un documentaire fait par Hold Back to Block, donc la chaîne YouTube Hold Back to Block, et ça dure une heure et demie, et en gros c'est Esteban Martinez, donc qu'on connaît parce qu'il a déjà fait d'autres documentaires du genre. Et ben là c'est incroyable. Je regrette que, tu vois, TMDJC, on ait fait le podcast sur Killer Instinct avant qu'il ait fait ce reportage,
oui.
Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos qu'on apprend. Il est allé voir tous les gens qui ont créé Killer Instinct 2013 et même certains qui ont fait les anciens Killer Instinct, dont le fameux Ken Loeb dont
il
on a
parlé. Il est très 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 bon, le documentaire.
Et Ken Loeb, il est fandard de ouf, et on apprend que c'est World Heroes qui a inspiré Killer Instinct, et là genre what? C'est génial. Et notamment il parle aussi beaucoup de la transition, enfin déjà de comment ils ont créé le premier jeu. On apprend qu'ils l'ont créé en 10 mois, ce qui est incroyable. La transition avec Iron Galaxy quand ils ont repris le jeu, etc. Donc super intéressant, vraiment ça vaut son heure et demie de visionnage. Donc je vous encourage à le regarder, vraiment très très bon. Et on va passer à la suite. Un autre truc qu'on vous encourage, c'est à profiter de choses qui sont moins chères que payantes, c'est-à-dire gratuit. Oni, je crois que je t'ai mis l'actu, mais je sais pas si t'es chaud vraiment.
Ah si, bah d'autant que je l'ai chopé dès que c'est sorti. Donc il s'agit de Samurai Shodown Neo Geo Collection, qui vient de sortir au moment où on se parle. Ça fait 2 jours qu'il est dispo sur l'Epic Game Store sur PC et qu'il est effectivement gratuit. C'est un peu le jeu gratuit de la semaine, puisqu'ils donnent un jeu gratuit chaque semaine depuis leur lancement. Donc il faut savoir, donc il est gratuit sur l'Epic Game Store sans aucune condition. À la fin de la semaine, donc à partir du 18 juin, il repassera à son prix normal qui est de 40€ quand même.
Oui.
Et que à la même date, il sortira donc sur Steam au même prix, le 18 juin. Et que si vous n'avez pas de PC mais que vous jouez sur console, il sort sur PS4 et Switch le 28 juillet. Donc à un prix que j'imagine similaire, autour de 40€.
Oui, c'est ça, oui, une quarantaine d'euros. Voilà.
C'est un peu cher, honnêtement.
C'est un peu cher. Alors après, ça va être...
Toute proportion gardée, parce qu'il y a quand même un nombre de jeux assez conséquent dedans, qu'il y a c'est beaucoup ça. De perles. Effectivement, c'est des jeux qui sont facilement trouvables en émulation, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est toujours difficile le curseur, mais quand tu regardes la compile de tous les streets qui étaient sortis étaient vendus, mais je crois que c'était autour d'une trentaine ou une quarantaine d'euros quand il est sorti. Donc on est à peu près dans les mêmes eaux.
Sachant qu'au niveau contenu, ils se sont fait plaisir quand même.
Ah, c'est d'autant plus intéressant. Alors ça s'adresse évidemment surtout aux fans de la saga Samurai Shodown, mais c'est quand même intéressant. Le prix pour moi est quand même relativement justifié parce que donc t'as 7 jeux en tout, t'as tous les Samurai Shodown de la Neo Geo. Attention, donc il y a pas le 6, ça veut dire. Mais t'as quand même 7 jeux jusqu'à Samurai 5 spécial et t'as la version perfecte de Samurai Shodown 5 qui sort avec cette version parce qu'elle avait été développée à l'époque en 2004. C'était une mise à jour de Samurai Shodown 5 qui avait été développée, qui avait été bêta testée, qui avait eu une version location test en arcade, puis qui a été annulée. Sans trop de raisons, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur certains trucs.
C'est juste monétaire. Hein. C'est juste ça.
Qu'on imagine bien monétaire, évidemment. Mais du coup, il a été annulé. Il n'est jamais sorti et il est resté dans les placards de chez SNK ou de quiconque a repris SNK pendant 16 ans. Jusqu'à ce qu'ils sortent.
C'est chez Yuki Enterprise, je crois, c'est-à-dire ceux qui développent Arcana Heart, qui développaient les Samurai Shodown à l'époque.
Mais pour aller dans le sens d'Oni, en fait, et je voudrais pas paraître celui qui exagère, mais pour moi, ce jeu justifie à lui seul en fait d'acheter la compile pour de vrai.
Ah oui, pour un fan, c'est la version ultime de toute façon du jeu. Alors ce que ça apporte, c'est qu'il y a des nouvelles cinématiques d'intro et de fin pour chaque personnage qui sont censées faire la continuité de l'histoire avec Samurai Shodown 6. Et il y a quelques rééquilibrages sur les persos. Alors j'ai pas la liste et je suis pas allé compter les frames en 2 jours pour voir qui avait quoi. Mais voilà, c'est un nouvel équilibrage par rapport à la version spéciale. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, encore une fois, pour les gros fans de Samurai Shodown, c'est que comme pour Street Fighter 30e anniversaire, d'ailleurs, ils ont rajouté un menu qu'ils appellent musée, et dans lequel tu peux retrouver, l'histoire de chaque jeu, et pas que des jeux Samurai Shodown, mais aussi de tous les jeux SNK dans lesquels des persos Samurai Shodown apparaissent. Donc ça veut dire Neo Geo Battle Coliseum, KOF 14, etc. Tous ces jeux-là ont une petite fiche dans laquelle tu peux avoir des explications sur quels persos sont dedans, qu'est-ce qu'ils font là, etc. T'as une bio pour chaque perso, des illustrations et des croquis qui pour certains sont inédits, des interviews des devs qu'on n'avait jamais vues avant, les musiques du jeu que tu peux tout écouter, et des vidéos de combats à haut niveau aussi, qui c'est plutôt sympa.
C'est ouf, ils ont mis genre le Tougeki ou le je sais plus trop quoi dedans, c'est ouf quoi.
Non mais juste pour dire un truc qui est vachement important sur ce que tu viens de dire, alors, sans en donner trop, là je suis en train d'écrire un bouquin autour de cet univers-là, pas spécialement Samurai Shodown, mais enfin un truc un peu plus large, et il y a des informations que pour ma part, j'ai galéré à croiser, parce que quand vous faites un travail journalistique comme ça, bah, on essaie de faire en sorte que ce soit pas juste une personne qui vous dise un truc, mais que l'information soit croisée. Il y a des trucs, là, dernièrement, entre la compile des SNK qui est sortie avec leur vieux jeu et cette compile-là, j'ai validé des trucs que ça fait un an et demi que j'essaye de faire valider par des pontes de chez SNK. Donc, on a vraiment des informations qu'on n'avait jamais vues nulle part ailleurs. C'est super intéressant, la partie du jeu.
Ouais. On n'a jamais vu ça.
On n'a jamais vu ça.
Mais juste un détail, par contre, on a eu quelques retours comme quoi il y avait des problèmes de son ou de ralentissement ici et là selon les configs sur PC. Donc attendez peut-être un petit peu. Je pense
enfin,
que
chopez-le, mais attendez avant d'y jouer.
Chopez-le gratos. S'il y a des petits soucis, je pense que ce sera patché. Il y a eu un patch juste avant qu'on enregistre le podcast, donc on n'a pas pu voir ce que c'était. Voilà. Merci Oni, on va passer, tu vas garder la main puisque tu vas nous parler d'un autre jeu qui a un numéro 5 qui va être inédit et qui a des nouveaux persos, 5 aussi, décidément, c'est ça. Alors franchement, info super surprise, parce qu'avec TMDJC on pourrait vous dire clairement qu'on s'attendait à l'annonce de Street Fighter 6 incessamment sous peu et peut-être à une sortie aux alentours de 2021, en gros, de ce qu'on supposait être. Il se trouve que ce sera probablement plutôt en 2022, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui arrive sur Street 5.
Bah oui, on pensait que c'était terminé avec la version Champion Edition, et finalement, ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé de faire une saison 5 sur Street Fighter 5, qui devrait, donc là, ils annoncent dans leur communiqué de presse que ce sera la dernière, mais bon, si l'argent continue à couler, on sait jamais.
Il y a peu de chances qu'il y ait une nouvelle saison.
Voilà, ce serait quand même étonnant.
Vu les travaux là autour de Street 6, ce serait très très étonnant qu'ils décident de poursuivre sur Street 5.
Et donc voilà, cette cinquième saison devrait apporter 5 nouveaux persos, ce qui est dans la moyenne des saisons précédentes, et 3 nouveaux stages. Ce qui va porter le total à 45 persos quand même, ça fait beaucoup.
C'est beaucoup.
Et pour le compte des stages, je ne l'ai pas par contre, mais on va être à 20 ou 30 stages en tout et pour tout. Donc ça c'est pour les infos, donc on sait pas encore quels seront les stages ni les persos, ça sera annoncé au cours de l'année de toute façon, mais pour l'occasion Capcom, histoire de faire monter la hype, a lancé un concours qui dure jusqu'au 21 juillet. Donc si vous savez dessiner, l'idée c'est de dessiner un costume pour un personnage de Street Fighter V, donc un personnage déjà présent dans le jeu. C'est toutes les propositions qui seront réunies par Capcom seront soumises au vote du public du 17 au 31 août sur leur site. Et les deux costumes les plus populaires seront intégrés au jeu. Voilà.
Alors, sachant que ça marche très très bien. Les retours là ça marche vraiment très très bien. Ça fonctionne bien, particulièrement, on s'étonne pas, mais particulièrement aux États-Unis.
C'est logique, parce que quand tu arrives, tu es illustrateur, tu arrives à mettre un de tes designs dans un jeu aussi populaire que Street Fighter V, ça fait une carte de visite incroyable.
Puis, surtout, ça marchait déjà en fait, même au Japon, puisque Dead or Alive l'a fait pendant des années aussi, des concours de trucs comme ça, donc c'est pas étonnant.
Il le faisait déjà à l'époque de Megaman, Capcom, c'est une recette vieille comme le monde qu'ils ont sorti.
Et on va rester sur le chiffre 5, le Gassi, puisqu'il y a un jeu qui a vendu 5 millions d'exemplaires. 5 millions d'exemplaires, et c'est...
Alors, DBFZ 5 millions... pour une petite licence comme ça, qui sort un jeu, c'était le pari du siècle. Qui aurait cru qu'un jeu de combat Dragon Ball aurait marché en 2020? Ben non, personne. Quel incroyable coup de poker. Non, 5 millions, c'est énorme. Le jeu est sorti quand même sur 4 plateformes. Donc, ça veut dire, pas 1 million sur PC, on s'est compris, mais limite 1 million sur chaque plateforme. Et puis, on a été célébrer ça avec un un Goku. Alors j'entends déjà les petits sexes se dire encore un Goku.
Encore un Goku. Le gars, si tu suces, Goku.
J'avale même. J'avale. Quand il est gris comme ça, quand il est magnifique. Alors, Sheik, tu diras ce qu'il vaut dans la tier list. Moi, j'ai pas très bien vu. Apparemment, c'est très fort. Ça esquive tout.
Bah, Goichi le joue. Donc, voilà. Bon, à partir de ce moment-là.
Si Goichi le joue, c'est validé.
Voilà. C'est un peu ça. Sauf que c'est Kefla.
Le souci, c'est Kefla. Ça a toujours été Kefla le souci dans tous les jeux. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Donc, Goku Ultra Instinct. On attend le reste du Season Pass. Il reste encore 3 ou 4 persos. 3. Mais malheureusement, comme on a dit avant, tous les tours ont été annulés. Donc, difficile de faire monter la sauce sur ces persos. Je pense qu'il y aura un portage sur les nouvelles consoles de ces jeux-là. Donc, attendez-vous à avoir une vie compétitive continue.
Avec un nouveau Vegeta.
Les SSJ4, ils vont arriver, hein, vous inquiétez pas.
Non, mais le prochain, c'est Majin, c'est obligé.
Ce serait très très bien. Et enfin, je voudrais terminer sur un autre chiffre. Bébé Tag, lui, qui a fait 450 000 ventes en 2 ans. Ce qui est plutôt respectable pour... ça reste un jeu de niche quand même. 450 000 ventes, c'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, un qui est vraiment de niche, et je vais en parler à la place de Prosk, parce que il n'est pas là, parce qu'il est trop occupé à couper des arbres, c'est Koime Enbu Ryo Rai Rai, qui a eu droit à un bêta test, en fait, sur Steam, dans les... je sais plus quand, mais c'est déjà passé, donc désolé. Et ça va ajouter un perso qui s'appelle Xu Wang, et un nouveau stratégiste qui s'appelle Guo Jia, et un nouveau stage qui s'appelle Luo Yang. Et en gros, cette version 3 sera un petit DLC à acheter en plus du jeu quand ce sera terminé, équilibré comme il faut. Donc voilà, si vous êtes parmi nos auditeurs qui aiment Koime Enbu Ryo Rai Rai, et ben sachez bientôt qu'il y a une mise à jour qui arrive avec un nouveau perso, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Et pour rester...
Nathan, on dit Xiuxiang et Xiuxia.
Ok, Xiuxia, ok. Et pour rester dans les choses qui font plaisir, Legacy, tu es monsieur chiffre aujourd'hui.
Ah ouais, ouais.
Allez, il y a encore un autre qui a bien vendu là quand même. Hein.
Ah, je vais m'appeler Samuel Etienne si ça continue. 350 000 ventes pour Granblue. Le jeu est donc sorti en mars chez nous, donc ça fait 3 mois qu'il est sorti. 350 000 ventes, c'est pas mal pour cette fois en vrai une nouvelle licence sur console, même si la licence mobile existait depuis des années. Et donc, vu ce succès et ces ventes, et ben, second Season Pass arrive. Bon, en gros, comme on l'avait dit dans un ancien pif, les persos du premier Season Pass auraient dû être dans le jeu de base. Clairement. Et le second Season Pass est ce qui aurait dû être le premier Season Pass. Donc, si vous aimez bien vous prendre 30 euros dans la tête pour quelque chose qui aurait dû être gratuit, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Mais ça ne vous donnera pas de rollback.
Et on va terminer avec une petite news exclusive. Je vois que TMDJC l'a glissé dans le conducteur comme ça, tranquille.
Wake up 3 frames.
Et il a juste écrit petite news SF6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire,
TMDJC? J'ai un petit truc à vous dire
à propos de Street Fighter 6.
En très court, alors on a déjà commencé à en parler tout à l'heure. On disait qu'il y avait un petit décalage, en fait, qui risque d'être un décalage un peu plus important qu'on pouvait imaginer au départ. Parce qu'en fait, Capcom s'est retrouvé dans une situation où il y a un personnage sur lequel il travaillait, en fait, qui avait une mécanique qui plaisait beaucoup à l'équipe, qui apparemment va devenir une mécanique générale de tous les persos. Donc, en fait, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule en termes de gameplay sur SF6, et c'est arrivé synchro avec le Covid. Donc en fait, ils ont pris énormément de retard sur ce qu'ils souhaitaient faire. Donc il y a ça, et a priori, alors moi, les informations que j'ai là-dessus, c'est qu'ils vont faire passer un autre jeu qui c'est une grosse licence de Capcom qui sortirait avant SF6. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire quelle licence parce que j'ai pas l'information, mais ils vont essayer de décaler en fait les sorties de manière à ne pas se marcher sur le pied. Donc voilà, c'est pour ça tout à l'heure Nathan disait on va pas voir SF6 tout de suite. Voilà, je pense que le jeu va être annoncé, mais qu'il va y avoir là aussi, comme ils ont fait avec Street 5, c'est peut-être une information qui va se glisser tranquillement quelque part, comme ils l'avaient fait il y a quelques années sur une news Sony. Donc il n'y avait rien à voir, c'est pas impossible en fait qu'ils commencent à communiquer comme ça pour faire monter la hype, mais ne pas marcher, ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis avec Street Fighter 5. Ils vont essayer d'étirer le plus longtemps possible, comme ils l'ont fait avec Street 4 quand ils se sont viandés en fait avec Street Cross Tekken.
Mais d'ailleurs, j'ai oublié de le noter, mais il me semble qu'ils ont mis à jour les chiffres de vente de Street 5 qui sont à 4,5 millions maintenant, ce qui est pas mal. Parce que
c'est
pas mal parce qu'en plus, si on considère la quantité de costumes de Chun-Li qu'ils ont vendus avec, le jeu doit être finalement plutôt
très,
rentable.
Très rentable. Non, ça marche très très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils ont complètement, parce que ça partait très mal au départ. Enfin, nous, les chiffres qu'on avait sur le retour, en fait, c'est surtout Sony qui faisait la gueule. D'ailleurs, je ne sais pas, pour de vrai, je n'ai pas le détail. Des informations là-dessus, là ce n'est qu'une supposition, mais étant donné qu'il y a toute une partie de l'argent qui est récolté par Capcom sur lequel Sony ne touche pas un centime, je ne suis pas toujours certain aujourd'hui que Street Fighter V a été vraiment une bonne opération pour Sony. Ça, je n'ai pas le détail du truc, mais en tout cas pour Capcom ça va très bien du côté de Street Fighter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura un nouveau Street Fighter qui va sortir, alors qu'à un moment donné la question était sérieusement posée. Par rapport à ça, je voulais vous dire un autre truc. Bon, ça me reviendra plus tard, c'est pas grave.
Bon, bref, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on le voit que Capcom, de toute façon, SF6 et les Resident Evil sont développés à la maison mère à Osaka. Et le truc, c'est qu'il y a le Resident Evil 3 Remake qui est sorti, mais qui n'a pas été développé principalement par Capcom Osaka, justement. Mm-hmm. Ce qui fait que c'est un jeu d'une qualité différente. Et sachant, à mon avis, en voyant le succès de ces jeux, ça a été d'énormes succès. Et le fait qu'il y ait Resident Evil 8 et qu'à mon avis, il y a eu des rumeurs comme quoi ils préparaient un remake de Resident Evil 4. À mon avis, ils n'ont juste pas la puissance de développement, comme tu l'as dit, avec le Covid en plus qui est venu au milieu. Donc, ils ont préféré prioriser RE8 pour qu'il soit dispo à la sortie de la PlayStation 5. Et donc, faire 5 persos pour Street Fighter 5. Ça prend vachement moins de temps. Quoi.
Ah bah tu peux surtout l'outsourcer, tu peux vraiment prendre d'autres boîtes pour te modéliser les persos, pour te faire les effets, pour faire tout ça, comme ils l'ont fait de façon sur tout le jeu.
Enfin, même si ça a été rapide, à mon avis, le choix d'allonger Street Fighter V, c'est pas fait dans les dernières semaines, parce qu'il faut quand même le temps de faire le choix, de développer les personnages. Donc, à mon avis, ça fait déjà, je pense que tout ça est arrivé au cours de 2019. Hein, là, c'est pas tout d'un coup un claquement de doigts en disant bon.
Bien sûr, mais il y a eu beaucoup d'accélération ces derniers mois.
Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça.
D'accord. Allez, on va terminer les news avec ce qu'on a publié sur Bagro.point ces dernières semaines. Alors, on a fait le first attack de Street of Rage 4. Je crois que c'était toi, Legacy, qui
était... Oui, je suis très content de cet épisode. Sûrement le meilleur de tous les first attacks sur un jeu excellent.
Tranquille.
Vous avez aussi le stream qu'on a fait avec Nathan, un playthrough du jeu que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube.
Voilà. Et on a aussi traduit et posté une interview de Kate, un des game designers de Killer Instinct 2013, saison 2 et 3, sur comment rendre les jeux de combat plus faciles et plus populaires. Donc c'est en gros une discussion qu'il a eue dans une autre émission. On a eu l'autorisation de la reproduire et de la traduire. Il a des takes très intéressants sur comment rendre des jeux de combat plus faciles et plus populaires, évidemment. Donc, parmi ces choses-là, le fait de... Enfin, il explique aussi clairement pourquoi aujourd'hui les DLC, comment les développeurs de jeux de baston réfléchissent, on va dire, à leur jeu. Donc, je vous encourage à aller lire ça. C'est tout pour l'actualité. On va passer aux chroniques. Jingle! Et on est de retour et on va commencer par un débat enflammé. Attention, non, en fait, on va tous être du même avis.
C'est un combat à la démage.
Moi, je vais être tous contre vous.
Ouais, voilà, mais comme d'habitude.
Juste parce que j'ai envie.
Ok, voilà. Alors, pour recontextualiser, si vous écoutez cet épisode au mois de juin, vous savez que normalement, dans un mois, c'est l'Evo, le plus gros tournoi de jeux de baston du monde, et qu'avec le Covid, même lui, il a dû annuler. Ils ont attendu au... Dernier moment possible pour essayer de maintenir l'Evo, parce que c'est un investissement et de la thune de ouf quand même, tout ça. Bon, la vraie raison, c'est probablement en fait qu'ils attendaient que leur assurance prenne en charge l'annulation de la location du truc à Las Vegas. Hein. Mais bon, voilà. Donc l'Evo est annulé, et surprise, surprise, on se doutait qu'il allait être annulé, mais on se disait, bon, ils peuvent pas faire un Evo online, puisque... tous les jeux qui sont à l'Evo ont un online pourri. Eh bien, figurez-vous que si, il y aura un Evo online. mais sur 4 jeux qui ne sont pas au programme de les votes cette année. Autrement dit, pour résumer les jeux, si vous me dites si je me trompe, c'est Mortal Kombat 11, Them Fighting Herds, le jeu favori de Shake, yes. Skullgirls, et le dernier, c'est bien évidemment Killer Instinct. Donc en gros, que des jeux avec un online excellent, avec du rollback netcode, innocent.
Tiens,
c'est intéressant, sachant que les jeux du roster d'origine du tournoi n'auront pas de tournoi en ligne. À la place, ils auront des exhibitions, donc probablement des FT10, des mini-tournois, des choses comme ça, des annonces aussi, probablement. Mais les jeux d'origine, avec leur online pourri, eux, ils auront droit juste à des trucs pré-record qui seront ensuite diffusés, probablement comme ça. Donc voilà, messieurs, qu'est-ce que vous faites de toutes ces annonces ?
Alors moi, je vais le dire, l'Evo, à la base, c'est là où je rejoins des collègues, on prend une maison pizza, on regarde. Là, même pas, je vais me faire chier à regarder. Déjà parce que les jeux ne m'intéressent pas ou peu. Dem Fighting Earth, c'est non. Skullgirls, c'est non. MK11, c'est encore pire. Killer Instinct, j'aimerais bien voir à quel niveau le jeu est arrivé en tant que Discord game. Mais sinon, le ZEF est complet, quoi.
Ouais, surtout que c'est divisé par... on n'aura pas juste une soirée avec une ou deux soirées ou un week-end. Ce sera vraiment une fois un tournoi par semaine.
Donc ouais, oui, ça va être, j'ai oublié de le préciser. En gros, le programme des tournois, c'est qu'en gros, le 4 et 5 juillet, c'est le tournoi d'Em Fighting Herds. Le 11 et 12 juillet, c'est le tournoi Skullgirls. Le 18 et 19, c'est Killer Instinct. Et le 25 et le 26, c'est Mortal Kombat. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi, c'est aussi Region Locké. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu te trouves, tu vas jouer. Tu ne vas pas forcément jouer Amérique, Europe, etc., etc.
Ça a posé certains problèmes aussi, hein, le choix des régions, qui a l'air d'être un peu arbitraire. Il y a une logique derrière, je pense, mais qui a l'air.
Qui est complètement arbitraire.
Hein. Ouais.
Je crois que si t'es en Grèce, t'as pas le droit de jouer en Europe.
Ouais, ah ouais, c'était ça, ouais. Mmh. Il y avait un joueur, un top player de Mortal Kombat.
En Russie aussi.
Il y a la communauté russe de Skullgirls qui s'est plaint en disant que c'est pas normal, on s'est entraîné, machin, tout ça, et on n'a pas le droit de participer à un tournoi. Alors que je sais pas si vous avez l'habitude de croiser des Russes sur les jeux en ligne auxquels vous jouez, mais c'est pas pire qu'ailleurs en Europe, en ce qui me concerne en tout cas. Mmh. Mais il n'y a pas de raison technique en tout cas qui puisse pas participer.
Même c'est juste que c'est imaginé par des Américains, ils voient la distance, ils se disent
c'est ça.
Le pays, il va jusqu'à la Sibérie, ils voient le pays jusqu'au truc. Sauf que non, la plupart des joueurs, ils sont à Saint-Pétersbourg, à Moscou,
c'est ça,
qui est sur la partie Europe de un petit cours de géographie, la partie Europe du continent. Donc bon.
C'est compliqué. On a dû déménager Strasbourg à Paris à cause de. Faut le rappeler.
Bref. Moi, il y a un autre truc que je voulais vous poser la question. Est-ce que on a eu des discussions un petit peu, des trades enflammés sur Twitter, sur le fait que ce move de l'Evo, comme ça, ce serait un move un peu politique, quelque part, dans le sens où ils n'ont pris online, en fait, que des jeux dont ils sont sûrs que ça va bien se passer online, et que donc ils ont foutu tous les autres jeux en arrière. Alors évidemment, ils ne peuvent pas se mettre... comment dire, en défaut avec les sponsors du tournoi qui amènent les jeux, etc., d'où les exhibitions, les choses comme ça. Mais il y a quand même... il y a un message ou pas qui est envoyé là par les dirigeants de l'Evo ou pas, d'après vous ?
Je peux y aller ou pas ?
Vas-y.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Vas-y, vas-y.
Il faut quand même comprendre un truc. L'Evo, c'est une marque.
Mm-hmm.
Et il cherche à le vendre au Japon, mais je suis sûr qu'il cherche à le vendre ailleurs. Il cherche à le vendre en tant que compétition à la télé véritable, tu vois. Ça passe déjà sur ESPN, mais il aimerait que ce soit comme les finales de NBA, les finales de le Super Bowl, etc. Donc tout repose sur cette image de marque. T'imagines passer sur l'online avec un match Street Fighter 5 où t'as de la téléporte partout. C'est juste pas possible.
En termes d'image, c'est terrible. C'est ça que tu veux nous dire.
En termes d'image de marque, c'est terrible. C'est la fin de l'Evo, c'est clairement, parce que ça va être même à mort, tout le monde va se moquer, vont se dire mais c'est quoi ces jeux-là, puis en termes d'image e-sport et jeux de combat, parce que quand tu regardes une compétition d'Overwatch, quand tu regardes une compétition, même les compétitions, je parle online, hein, bien sûr, quand tu dis l'Overwatch League, c'est du LAN, mais les compétitions online, t'as pas de problème de machin, les matchs se diffusent, t'as peut-être quelques coupures, mais là, comment ça va être? Le genre du jeu de combat se mangerait une vague de honte qui serait irrémédiable, soyons clairs.
Irrémédiable, je sais pas, mais.
Irrémédiable, parce qu'on dirait. Parce que tous les. Le gamer moyen dirait. Quoi, tes jeux qui lag là ? Non, merci.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Moi, ce que je trouve cruel dans cette logique, c'est que concrètement, ce genre de choses, c'est pas vraiment la faute de l'Evo. Les responsables, c'est Capcom, c'est Bandai Namco, c'est tout ça. Et que l'Evo se protège en disant bon, on va pas mettre Tekken, on va pas mettre Street parce que le online il est impraticable et que c'est impossible de faire un tournoi à cette échelle, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut que ça soit aussi un électrochoc pour Capcom, Bandai et compagnie pour se dire peut-être que il va falloir qu'on bosse un peu le online de nos jeux parce que ça devient une fonction vachement importante quand même,
centrale.
Centrale des jeux et que ça c'est plus possible de les négliger à ce point, quoi.
Mais ce qui est compliqué, alors je sais pas comment ça se passe chez Namco, mais en tout cas chez Capcom, ce qui est compliqué, c'est que les décideurs sont pas forcément ceux qui ont les bonnes informations. Et là, et c'est là où il y a toujours cette énorme problématique qui est que t'as des licences qui appartiennent à une partie du groupe et pas forcément à l'autre. Hein. On rappelle que Street Fighter appartient à Capcom USA et pas à Capcom Japon. Ça soulève beaucoup de difficultés quand on sait que le jeu il est pas forcément développé aux États-Unis. Donc on se retrouve avec des jeux qui ont le cul entre deux chaises avec des gens qui sont bien conscients qu'il y a des problèmes, qui font remonter les problèmes et sur lesquels on leur dit oui, bah écoute, t'es gentil, mais ce sera comme ça parce que là, on a tel contrat avec telle structure, là, on est en bise avec Sony pour Street 5, etc. Donc, ils font comme ils peuvent au fait avec ce qu'ils ont et c'est compliqué.
Après, il y a un contraste entre les régions, effectivement, parce que tu prends un jeu comme Tekken, qui est, lui, développé au Japon, je dis pas de conneries quand je dis ça. Pour le coup, au Japon, tous ceux qui ont voyagé au Japon l'ont vu, toutes les connexions sont nickel chrome, ça marche partout pareil, tout le monde
l'Internet le plus puissant.
Voilà,
du monde.
Tout le monde a la fibre au équivalent, donc ça marche bien. Et quand un jeu qui est développé là-bas, testé là-bas, le online est testé là-bas, et qui débarque aux USA où les connexions sont pourries, l'infrastructure est dégueulasse, tout lag, tu veux jouer entre la Californie et New York, c'est impossible. Forcément, tu prends la même chose qui marchait parfaitement au Japon sur un pays relativement petit, tassé, tu mets ça aux USA, ça marche pas. Et forcément, le Japon comprend pas de prime abord d'où vient le problème.
Même au Japon, quand il y a eu je crois que c'est le Battle Planner de chez French Bread qui a joué à Skullgirls, il a dit mais je veux du rollback dans mes jeux. Parce que même lui qui joue à un jeu au Japon avec l'internet puissant avec un japonais, il s'est rendu compte de la puissance de ce système en fait. Donc pour revenir sur le sujet qui est l'Evo Online, oui l'Evo met quand même se dit vous n'êtes pas plus important que notre image de marque et c'est à vous de faire cet effort pour pouvoir être featuré sur des events qui ne sont pas des events irréels. IRL, pardon, excusez-moi.
Mais du coup, c'est assez étonnant quand même, parce que autant qu'ils prennent Mortal Kombat, c'est un jeu de l'Evo, Killer Instinct, c'est un jeu de l'Evo, Skullgirls...
Il n'était pas à l'Evo MK11, justement, avant ça. Et c'était
En général, c'est des jeux side event, hein, tous ces jeux-là, en général.
Ouais, mais je veux dire, la licence, en général, a déjà été à l'Evo, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Vois, Killer Instinct, ok, bon, Skullgirls, tu pourrais dire, bon, ok, le jeu, il s'était battu en 2013 contre Smash Bros, il a perdu, tu peux pas gagner contre Smash Bros, bon, bref. Mais alors, Dems Fighting Herd.
Ah oui.
Tu vois, enfin là, j'ai vu ça, j'ai fait, bah c'est super cool pour la licence parce que c'est des gars très bien qui font ça et ils utilisent le moteur de Skullgirls, donc le online de Skullgirls qui en plus a été amélioré et donc ils ont récupéré ces améliorations, donc il y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'honnêtement, ça fait quand même extrêmement pied de nez quand même.
Dans la catégorie jeu de niche, là on va loin quand même.
Ouais, parce que c'est quand même un jeu avec quoi, 6 persos. Qui vient de sortir en V1 comme ça, ou en plus c'est des animaux, enfin ça n'a vraiment rien à voir, quoi. C'est...
J'aurais vraiment plus vu, comme on disait tout à l'heure, un Power Ranger qui lui aussi a un netcode intéressant et qui en plus est une licence qui parle aussi bien au Japon
qu'aux États-Unis
en Europe. Ouais. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas Power Ranger pour Fighting Girl, et puis ils auraient pu mettre 5 jeux, quoi.
Oui, il y a rien qui les en empêchait.
Moi, je suis un peu étonné qu'ils aient pas que par exemple. Après, je suis pas étonné quelque part parce que bon, tu vois, genre il y a la Samurai Shodown Collection qui sort, ils auraient pu dire allez, on se fait un tournoi sur Perfect, mais bon, quand il y a l'autre, la version 2019 qu'il faut vendre, effectivement, tu peux pas dire on va demander aux gens de vendre ça, effectivement. Bref, donc. Après, est-ce que ça va vraiment changer ? Est-ce que le message va vraiment être reçu par les développeurs ? Honnêtement, pour Capcom, oui, c'est sûr, parce que de toute façon, ils ont fait Marvel vs. Capcom Infinite, qui a un très bon online, pour le coup, donc c'est pas un souci. Par contre, chez d'autres développeurs, Arc, on sait qu'ils sont en train de passer au rollback, ils vont le faire pour Guilty Gear Strive, donc ça, c'est déjà fait, mais c'était confirmé avant les online. Par contre, deux dont je pense vraiment ils vont rien faire, c'est Bandai et c'est SNK. Je ne les vois vraiment pas changer leur fusil d'épaule là-dessus.
Alors après, pour SNK, on sait qu'il y a quelqu'un qui leur parle et qui n'est pas fan du rock back. C'est le code. Voilà.
On se demande qui,
je pose sur la table. Il y a des gens qui parlent et qui ne propagent pas le bon message. Mais pour Bandai Namco, moi, je pense que les choses elles changent parce qu'on a vu récemment, il y a 2 jours, je crois, Arada tweeter sur le sujet.
Oui.
Il a expliqué, il a voulu se défendre en disant que même en fait, il y a du rollback dans Tekken, mais vous ne comprenez pas. Bon, les gens lui ont expliqué que non, en fait, ce que toi, tu as mis, c'est pas bon.
Ce que tu appelles rollback, ça n'a rien à voir.
En fait, c'est même l'inverse du rollback. On ne va pas rentrer dans les considérations techniques, mais c'est manger des frames pour exister. Enfin, bref, c'est pas du tout possible. Donc, je pense qu'il a quand même vu. Après, est-ce qu'il a maintenant vu ça monter en position, le pouvoir de faire, d'appuyer sur ce genre de choses? Je ne sais pas. Mais j'espère vraiment que pour leur prochain jeu, parce qu'ils ont quand même... c'est les plus grands fournisseurs de jeux de combat à l'heure actuelle. Hein. Mmh. Smash CE, Tekken CE, Soul Calibur CE, Dragon Ball CE. Donc, ils ont un pouvoir décisionnaire sur le monde du jeu de combat que personne n'a, en fait. Mmh. Même Capcom ne l'a pas.
Mmh. Je suis assez d'accord avec toi.
Donc, s'il y a quelqu'un à convaincre, c'est bien eux. Et j'espère qu'ils ont compris, qu'ils ont vu le message. Mais vu le fait que Bandai Namco devienne de plus en plus international, ça ne m'étonnerait pas.
Tu pourrais peut-être rappeler en 2-2 ce que c'est que le rollback pour les auditeurs qui ne savent pas exactement ce que c'est, justement, pour bien expliquer la différence avec ce qui est fait sur Tekken.
Je vais le faire dans ce cas. En gros, le rollback, c'est le... Alors, en gros, il y a 2 types de netcode connus. Il y a le delay et il y a le rollback. Le delay, en fait, ça consiste à ajouter des frames de lag au jeu, par exemple, 2-3 frames. Et,
ce que tu as dans des jeux comme Street 3 Online, par exemple.
Non, Street 3 Online, c'est du rollback.
Dans Street Online Edition, t'as justement, tu rajoutes du lag, tu peux choisir le lag que tu rajoutes.
Alors en fait, c'est pas la même chose.
C'est encore autre chose, attends, on va y venir. Online Edition, c'est du rollback. On parle vraiment de Tekken, ou encore mieux, de tous les jeux Arc System Works. Dragon Ball, Guilty Gear Xrd, etc. En gros, c'est le principe de, on ajoute un peu de retard dans le jeu de façon à voir où est-ce que en sont les deux joueurs et à les maintenir synchronisés. En gros, le problème, c'est que ça crée de l'input lag, logiquement, donc c'est plus difficile de faire des combos, de réagir, surtout de réagir en fait. Et le problème, c'est que, mettons, il y a une perte de données, et ben le jeu est obligé de s'arrêter pour attendre que cette perte de données soit compensée par de nouvelles données, etc., etc. Ensuite, il y a le rollback. Le rollback, c'est le principe de dire on ne met pas d'input lag. Ce qu'on fait, c'est qu'on revient dans le passé. Si, par exemple, les deux joueurs font 2 mouvements différents et on se rend compte que c'était donc ils n'ont pas affiché la même chose, et bah, tout simplement, on va, de manière très rapide, resynchroniser les jeux en dévorant, parce qu'en bouffant, clairement, des frames d'animation sur, par exemple, le startup des coups. Il y a aussi une autre technique qui est ajouté dans le rollback, qui est la prédiction, qui est de dire, si le joueur il a fait ça, il y a quand même une chance qu'il soit encore en train de le faire. Par exemple, un joueur avance vers l'avant, on a une perte de connexion pendant une frame, et bien le rollback va assumer que le joueur a continué de marcher vers l'avant. De cette manière, on ne va pas freeze le jeu parce qu'on ne sait pas s'il est en train de marcher ou pas marcher, ce qui est toujours agréable. Il y a aussi le fait de ne pas vérifier le rollback quand, par exemple, on est en train de faire un coup spécial ou un combo ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et enfin, il y a une dernière chose très importante, c'est que le rollback et le delay, donc le delay qu'on expliquait, donc ajouter de l'input lag, ne sont pas contraires. C'est-à-dire que tous les bons systèmes de rollback ajoutent 1 ou 2 frames de delay. Par exemple Killer Instinct et Mortal Kombat, je crois que par défaut c'est 3 frames de façon
Killer Instinct
à ce qu'en gros on puisse maintenir les deux joueurs synchronisés, mais à partir du moment où il y a une désynchronisation, on n'arrête pas le jeu, on se sert du rollback pour en fait resynchroniser les deux joueurs. Donc voilà, c'est les deux approches comme ça, et le problème c'est que Bandai Namco est toujours dans une approche du delay netcode. Arc System Works, ils y étaient et ils se sont fait tellement bourrer le mou pour que leur jeu il ait un bon online qu'ils vont passer sur du rollback. Capcom est passé sur du rollback mais a raté l'implémentation dans Street Fighter V et l'a réussi dans Marvel vs Capcom Infinite. Et SNK est entre deux eaux, puisque en interne, ils en ont rien à foutre du rollback. On a même eu des échos comme quoi, en fait, ils disaient que le délai, c'était parfaitement acceptable pour tout le monde. Et puis, vu comment ça a tourné sur Street 5, il vaut mieux pas y aller parce que, en gros, apparemment, il y a eu des retours comme quoi,
Street 5 a fait mal au netcode.
Street 5 a fait beaucoup de mal, en fait, à l'image du netcode. Et le pire, c'est que, on n'arrête pas de le dire avec TMDJC, mais les développeurs, entre eux, ils parlent. Et donc il y a de fortes chances aussi que des gens de Capcom, ils aient parlé à des gens d'SNK en leur disant c'était l'enfer, on en a trop chié, etc. Et il faut bien le dire, SNK actuellement ils sont plus dans une approche de on fait les jeux qu'on a envie de faire et tout ce qui nous empêche un peu d'aller dans notre direction de manière facile, on va dire, ça nous casse les couilles. Et comme le rollback a beaucoup de contraintes techniques en amont du développement, je ne pense pas que SNK ils aient très envie en fait de se mettre des bâtons dans les roues.
Une contrainte supplémentaire.
Ils ont juste envie de faire leur jeu et ils se disent ça suffit comme ça. Donc voilà. Et donc, Them Fighting Earth, Skullgirls, Killer Instinct, Mortal Kombat, ce sont des jeux qui sont tous été faits avec le rollback en tête et donc du coup ils marchent très bien en ligne. Voilà.
Alors je suis très très content d'avoir posé la question parce que je l'avais fait pour nos auditeurs, mais tu vois, je ne savais pas par exemple que 3-3 en fait avait du rollback. Là tu me l'apprends.
Voilà, en fait certains jeux te permettent de choisir le nombre de frames d'input lag que tu peux ajouter. Par exemple Killer Instinct, c'est 3 frames pour tout le monde, ça a été choisi pour les joueurs, etc., etc. Donc du coup quand tu joues, tu sais que tu auras toujours 3 frames fixes, ça ne changera jamais. Pour un jeu comme Skullgirls par exemple, tu peux choisir le nombre de frames de lag que tu mets. Et de cette manière, si tu joues avec quelqu'un qui a par exemple 150 millisecondes de ping, tu vas ajouter 4 frames d'input lag, ce qui sur un jeu comme Skullgirls n'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de wireframing, de choses comme ça, et du coup tu vas pouvoir jouer. Voilà, donc c'est super bien, c'est ultra violent. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc, ils n'ont pas fait une sorte d'hybride aussi pour Mark of the Wolves, la dernière mise à jour qu'ils ont sortie, qui ajoute du rollback? Il n'y a pas, ou peut-être que je confonds avec un autre jeu, il me semblait avoir vu un jeu qui est sur un délai netcode quand le ping est bas, et quand le ping commence à grimper, ça passe sur du rollback. Je ne sais plus pour quel jeu j'ai vu ça.
Je ne sais plus si c'est ça, mais de toute façon, un bon rollback, c'est forcément du délai plus du rollback, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tant que tant qu'il n'y a pas de lag, on est sur du délai de base. C'est comment on gère le lag, en fait, qui rend le rollback très intéressant, avec, comme j'expliquais, la prédiction et ce genre de choses.
Mais de toute façon, sans lag, le rollback, entre guillemets, il ne peut pas être fonctionnel, parce qu'en fait, sinon, ça corrige des trucs que tu as éventuellement fait.
En fait, le truc qui est un peu compliqué avec le rollback, c'est que si jamais, tu vois, tout se passe bien, t'es tout le temps en train de corriger des trucs. Or, le truc, c'est que, tu vois, genre, un mec qui fait avant, arrière, est-ce que t'as vraiment besoin de rollback pour corriger ça? Non. Le mieux, c'est d'avoir peut-être une frame ou deux d'input lag native et constante qui te permet de dire, ça, c'est synchro, j'ai pas trop besoin. Et à partir du moment où ça devient plus compliqué, il se passe plus de choses et il y a des pertes, en fait, de paquets d'informations, dans ce cas, tu fais sur du rollback. Donc voilà. Voilà.
Qui explique les téléportations dans Street Fighter 5.
Exactement, mais Street Fighter 5 est une très très mauvaise implémentation du rollback. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'Evo Online?
Pour moi, non.
Non, je regarderai avec plaisir le tournoi Killer Instinct, parce que j'adore ce jeu, mais les autres jeux ne m'intéressent pas, un peu comme Legacy. C'est vraiment le seul jeu qui me parle dans le roster, donc je guetterai ça.
Ça marche. On va passer à la suite. TMDJC, tu veux nous parler encore d'un bouquin sur Street Fighter, mais tu n'arrêtes jamais. Est-ce que tu lis d'autres livres que des bouquins sur Street Fighter?
Alors en ce moment, oui, parce que je lis pas mal, mais c'est clair que chez Bagro Point, je vais plutôt cibler jeux de combat. Là, ce ne sera pas que Street Fighter, parce que je vais vous parler du bouquin qui est sorti chez Bixenlove, en fait, sur les 30 ans de Capcom, en fait, où il parle de tout ce qui s'est passé entre 1983 et 1993. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu déjà ce bouquin?
Non.
Alors, c'est vraiment un bouquin que je conseille. Alors, évidemment, dès que je parle d'un bouquin, très souvent c'est un bouquin que je vais conseiller, mais là très clairement celui-ci il est vraiment très intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Alors le bouquin, comme d'habitude, est loin d'être donné, parce que c'est un très beau bouquin. Vous le trouverez, en fait, suivant les endroits où vous allez l'acheter, entre 40 et 45 euros. Moi j'aurais tendance à vous dire que si jamais vous n'êtes pas près de vos sous, de l'acheter directement chez Pixenlove, parce que voilà, c'est toujours bien d'aller se fournir chez l'éditeur. Mais en termes d'auteur, déjà, juste pour faire un petit tour de table, on a quand même là-dedans, on a Greg Da Silva, on a Christophe Delpierre, on a Florent Gorge, on a Michael Garnier, on a Benjamin Perret qui a écrit d'ailleurs une partie très très intéressante dont je vais parler juste après. On a Marc Prétonil, on a Raphaël Pézet et on a Guillaume Verdun. avec une très très jolie couverture d'ailleurs de Monsieur Garcin qui a fait un très joli truc avec les Megaman. Vraiment la couverture est magnifique. Le bouquin en fait, tout à l'heure je parlais des infos exceptionnelles qu'on a vues dans les compiles SNK, bah, c'est un petit peu ce qu'on a l'impression d'obtenir quand on ouvre particulièrement la première partie de chez Capcom, parce qu'ils ont été interviewés des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc des gens qui ont vraiment été décideurs dans certains cas de figure, mais qui ne communiquaient pas ou très peu, et c'est très très difficile d'obtenir des informations pour des boîtes comme SNK justement ou Capcom. Et là, comme ça a été validé par Capcom, enfin le bouquin il a mis très longtemps à être édité, ils ont vraiment eu le temps d'arriver à trouver la juste mesure entre ce qu'ils pouvaient dire, donc ils n'ont pas pu tout dire, mais ce qui raconte vraiment l'histoire de chez Capcom, et notamment en fait comment Capcom est arrivé, comment d'ailleurs une partie du savoir de Capcom est partie chez IREM par exemple, ou ce genre de choses. Si vous êtes féru d'histoire en général, si vous êtes fan de Capcom et fan du jeu vidéo en général, c'est vraiment un bouquin que je conseille. Alors vraiment, la première partie est vraiment dédiée uniquement à la partie historique de Capcom, et ensuite il y a toute une partie du bouquin, les deux gros bons tiers en fait, où ils vont parler de tous les jeux qui sont sortis à cette période là et même là-dedans, alors que moi il y a des jeux que je connais plutôt bien, j'ai découvert des trucs que je ne savais pas sur des jeux, donc c'est vraiment un bouquin qui est très intéressant, qui est très très beau, et si vous avez envie de vous faire un cadeau ou si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, bah, c'est vraiment un bouquin que je conseille très très fortement. Je tiens à dire que je n'ai pas participé à l'œuvre et que je ne touche pas un centime sur le livre, donc c'est vraiment un bouquin de cœur tout court.
Très bien, merci TMDJC. On va passer à notre dernière chronique débat, on va dire un petit peu. Avez-vous suivi le stream de l'annonce de la PlayStation 5 et de son design de ventilateur vertical, voire de Senseo?
De sel.
C'est un design de routeur Wi-Fi, je trouve.
Mais ouais, ouais. Ça marche aussi.
J'ai vu quelqu'un poster la box 9 Télécom.
Oui,
et ça m'a rappelé des souvenirs parce que j'ai eu cette box et j'ai fait, mais oui, évidemment. Alors donc, pour résumer, Sony a annoncé la PS5 et il n'y avait aucun jeu de baston dans leur conférence. On n'est pas très étonné globalement, puisque globalement, la plupart des jeux actuellement sont soit en season pass en cours, soit vont en avoir un autre, soit viennent de finir un peu leur cycle de vie. Donc je pense pas qu'on va avoir de grosses annonces jeux de baston avant au moins 2021-2022. Mais du coup, bon déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces annonces-là? Vous êtes excité? Vous allez tout acheter? Vous êtes chaud?
Alors, excité, non, mais il y a 2-3 jeux qui m'ont rendu curieux, notamment Jet, comment il s'appelle Jet, The Far Shore ou un truc comme ça.
Ratchet & Clank?
Non, c'est un jeu, un trailer qui était très court en plus dans la conférence, mais ça a l'air d'être un jeu où tu explores une planète désertée où il n'y a personne.
Ah, oui.
Et j'aime bien les jeux où il n'y a personne, donc ça me plaît.
Ah, avec la femme qui se réveille dans le truc à l'infini.
Ça, c'est encore un autre. Ah. Non, le trailer était un peu avec des couleurs sépia, puis après ça s'élève dans l'espace.
Ah oui, je vois ce que c'est. C'est le jeu de des Super Brothers, là.
Ouais, c'est ça.
Oui, je vois, oui. Je vois de quel jeu tu parles. Bref, donc.
Horizon 2, bien sûr, parce que j'ai adoré le 1.
Ok. Personne d'autre n'a été excité par l'annonce, annonces de jeu.
En fait, le problème, c'est que tout l'axe de Sony, c'est les possibilités du SSD. Alors, on a eu une autre conférence avant qui était ultra technique, ultra chiante, avec Marc Cerny qui nous explique la puissance du SSD. Mon frérot, ça fait 10 ans que ça existe sur les PC, on sait ce que ça fait, tu vois. Donc, tu viens pas de l'inventer, tu vois. Alors que c'est ce qu'ils vendent dans les journaux. Hein. Moi, j'ai écouté le journal d'M6, ils nous expliquaient, grâce à ce nouveau format de disque dur, vous pourrez vivre des... Oui, mais non, c'est pas un nouveau format que Sony a inventé. Le SSD, ça fait des années. Mais pour une conférence qui était censée nous annoncer la console et les possibilités, le futur du gaming, bah, finalement, à part Ratchet & Clank, on l'a pas vu, ce futur.
Moi, je me suis toujours permis d'une conférence qui s'appelle Le futur du gaming et qui commence par GTA 5. Hein.
Ouais, franchement, c'était fort, ça.
Ouais, ça... Ouf. Ah, c'était dur, hein. Ah, ça, c'était dur, GTA 5. Hein. Franchement, un jeu PS3 qui ouvre une conférence PS5...
Alors, on va revenir un petit peu au jeu de baston, du coup. Alors, il n'y avait pas d'annoncé, clairement, hein, parce qu'on va attendre un petit peu. Je pense que, évidemment, le prochain Mortal Kombat sera dessus, le prochain Street Fighter, etc. Bon, très bien. Il n'y a pas de souci. Peut-être même Tekken Cross Street Fighter. voire un Marvel vs Capcom pour faire plaisir à Cheikh. KOF 15, non, je pense pas.
KOF 15, il sera, je suis sûr qu'il sera cross-platform. On aura une version PS4, PS5.
Mais de toute façon, tous les jeux de PS4 tourneront pas sur PS5. C'est pas un des trucs de base de la console.
Si, mais tu auras une version PS5 un peu plus belle. Tu auras droit à des shaders sur la version PS5.
Ok. Donc,
on n'a pas précisé qu'elle sort en deux formats du coup la console.
Ah oui, avec un lecteur Blu-ray ou pas un lecteur Blu-ray. Alors moi, la première chose que j'ai remarqué quand ils ont annoncé la console, j'ai fait merde. Sur le devant, il y a que deux ports USB, il y a un port USB 3 et il y a un port USB-C. Et là, je me suis dit, si on est deux mecs avec des sticks arcade en USB 3, comment on fait?
Bah, un adaptateur.
Oui, non, de chaussures, il pourrait y avoir un adaptateur. Et on n'a pas vu l'arrière de la console. Oui. Il n'est pas impossible qu'ils aient planqué un port USB derrière la console, donc on ne sait jamais. Mais
d'après ce que j'ai compris, non.
Ouais, peut-être pas.
Peut-être le port Ethernet chat derrière, c'est tout.
Dans tous les cas, c'est peut-être le moment ou jamais d'avoir une gestion correcte, contrairement à la PS4, des manettes sans fil et de passer sur du sans fil qui fonctionne, quoi.
Bah, sachant que ça fonctionne déjà, on va dire. Mais
Ça fonctionne déjà, mais on a tous vu ou vécu un tournoi interrompu parce que quelqu'un a allumé sa manette à l'autre bout de la pièce sur PS4. Et voilà, ça m'est arrivé aussi. Et si Sony avait eu deux rondes jugeotes, ils auraient fait une gestion du Bluetooth qui était un tout petit peu mieux intégrée à leur OS. Et j'espère qu'ils y auront pensé.
Raconte-toi un style d'Adadji, Stunfest 2016, m'avoir pourri mon match.
Putain, moi, c'est un des tournois qu'on a fait en Bretagne, là. J'étais méga chaud contre un Lee sur Tekken 7 et je galérais parce que c'est vraiment un perso de mort. Et putain, j'ai perdu, mais c'est vraiment à cause de la connexion d'un autre type. Hein.
Ouais,
bien
vraiment.
Sûr.
Ouais.
Elle est belle, cette excuse-là, j'aime bien.
Il y a un mec qui n'a pas découvert sa manette. J'ai perdu.
Le sac Ikea de 40 kilos, là, de 40 litres.
Bref, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être se faire une wishlist de ce qu'on voudrait grâce à la next gen? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous saoule dans les jeux de baston actuellement qui potentiellement pourrait être réglé par ces nouvelles consoles pleines de SSD, de RAM et de processeurs? Qu'est-ce qui vous fait chier? Allez, dites-moi alors, tout.
Moi, ce serait tout simple. C'est que, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Ratchet & Clank, parce que c'est l'exemple le seul parlant qui utilise ce truc-là. C'est, on a toujours eu une base dans les jeux de baston, c'est un stage, deux personnages qui se battent. Mmh. Voilà, c'est la base. On a eu des jeux qui ont changé ça avec Injustice, là le nouveau Guilty Gear, où tu passes d'un stage à un autre par un changement de plan. Mmh. Moi, ce que j'aimerais, c'est clairement passer d'un stage à un autre. Passer de Volcanic Rim à en dessous d'un pont à Tokyo,
ça,
etc.
Ce serait
etc.
Ouais.
Mmh.
Ce que permet donc, comme ils le disent, la puissance du SSD, parce que tu peux charger donc plusieurs gigas en quelques secondes. Donc, imaginons, tu fais un coup, ton perso met un punch multidimensionnel, tu traverses les machins, ça change, et les stages changent aussi. Donc ça, c'est une des possibilités. Il faudrait que ce soit intégré donc, au gameplay, à l'histoire et au pouvoir des personnages. Mais voilà, un petit peu pouvoir changer l'environnement.
Ouais, qui est un petit peu plus de personnages, justement, à la 12 ou à ce genre de choses. C'est-à-dire des personnages qui soient complètement... Enfin, que tu peux déplacer, modifier dans tous les sens. Le retour d'un Dimitri, par exemple, qui utilise ses pouvoirs pour te changer en vierge. Enfin, vraiment, de pouvoir utiliser la puissance de la machine pour faire, à l'époque où on avait des sprites, en fait, libérer complètement en fait, l'esprit des développeurs en disant « Tiens, et si tout d'un coup, le perso, il faisait ça ?»
Bah ça, en théorie, de toute façon, enfin, il y avait déjà de quoi faire tourner correctement des jeux de baston actuellement. Moi, le truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'il n'y ait pas de temps de chargement. On appuie sur le bouton d'écran de sélection,
base, ouais.
On prend le stage et zbla, on est déjà en match, c'est round 1. Au moment où j'appuie sur entrée pour le stage, je veux voir le round 1 apparaître.
Ce qui est intéressant, voilà. C'est que les jeux vont être conçus comme ça, justement, parce qu'à l'heure actuelle, si tu joues à Tekken 7 sur un PC, même un PC à 4000 balles avec le meilleur SSD, le plus rapide, t'auras toujours 10, 15, 20 secondes de chargement avant que ton match
commence. Welcome to the next battle.
Et exactement, et ça, du coup, ça va pouvoir être éliminé avec ce genre de techno, ouais.
Mm-hmm. Bah, c'est-à-dire que là
les codeurs sont pas des branlots.
Voilà. Oui. Au moment justement où on n'arrête pas de dire oui, le PC de toute façon il fait tout forcément mieux qu'une console et justement il y a vraiment une guerre de config. Autant que la console soit vraiment pensée dès le départ le mieux possible pour que c'est pas parce qu'elle est plus puissante en fait qu'elle fonctionnera mieux, mais parce qu'elle aura été pensée uniquement pour ça et qu'elle propose effectivement une techno en fait qui ne lagra pas.
C'est exactement ça. Non, mais il y a un point technique là où Legacy a parfaitement raison, c'est quand il dit Sony a pas inventé le SSD. C'est vrai. Leur SSD à boîte hyper rapide, c'est un SSD comme tu peux en acheter un maintenant tout de suite là, sur LDLC ou sur Amazon pour ton PC. Ce qui est intéressant dans la PS5, c'est qu'ils ont créé un contrôleur exprès qui va se charger de gérer que le SSD et la manière dont il distribue les données à tout le reste de la machine, ce qui se fait pas actuellement vraiment de la même manière sur PC et qui va permettre justement de faire ce genre de transition où pendant que le jeu tourne et que tu changes de stage, ce qui normalement devrait dire on arrête le jeu, on charge le stage, on relance le jeu, là non, tu peux le faire justement de manière vachement fluide grâce à ce genre de choses que Sony a conçu parce qu'ils font tout le système de A à Z, tout l'OS de A à Z, et donc ils gèrent bien leur truc. Après ça va être aux devs d'exploiter correctement ce genre de choses pour faire des jeux qui exploitent ça. Ouais. Mmh.
Mais en fait, le truc, c'est que c'est paradoxal parce que c'est la PS5, c'est la plus grande, enfin la PS5 et l'Xbox One Series, hein, on le dit depuis tout à l'heure, mais c'est les deux fonctionnent sur les mêmes technologies.
Oui, oui.
Mais ces consoles-là sont la plus grande avancée du jeu PC.
J'avoue. Oui,
parce que les,
oui, j'avoue.
Parce que les jeux PC ont toujours été créés de façon à pouvoir être portés sur console, ou alors c'est des jeux consoles qui sont portés sur PC. Mais comme je dis, ça fait déjà 10 ans que ça existe, la technologie SSD. Si on créait des jeux que pour PC avec la technologie SSD, on aurait déjà eu cette avancée.
Bien sûr.
En fait. On aurait déjà eu cette possibilité de gérer des gigas en quelques secondes. Quand vous prenez vos anciens jeux sur Super Nintendo, sur Sega Saturn, sur ce que vous voulez, vous lancez le jeu, il se lance immédiatement.
Ah putain, ouais, ça c'est ce que je veux aussi.
Voilà, tu rentres dans une pièce, bim, ça charge. Il n'y a plus, comme dans FF7 Remake, dans God of War, dans tous les jeux, ces zones d'attente, vous prenez un ascenseur, vous traversez une paroi étroite, c'est juste des chargements maquillés en fait. Et ça disparaît en fait. Et d'un seul coup, le jeu devient plus libre et beaucoup plus imaginatif. Alors après, c'est toujours les mêmes discussions d'avant sortie de console. Le futur, ça va être génial et on va se retrouver à jouer à des BR toute la soirée. Mais les possibilités sont là. Et pour le jeu de combat, je pense que ça peut être vraiment une belle avancée.
Après des fois, il y a des choix qui étaient faits. Là, tu parlais de la Saturn. Il y a des choix qui sont faits. Le fait de rajouter de la RAM, par exemple, permettait à les jeux de chez Capcom, par exemple, ou d'autres, d'être l'équivalent de ce qu'on faisait en arcade. Les Marvel versus Capcom sur la Saturn, il n'y a pas de temps de chargement. Pas du tout.
Même pour parler des transitions de stage, t'as déjà quelques jeux de l'époque en 2D qu'ils faisaient aussi un petit peu. T'avais X-Men,
des Dragon Ball,
Street Fighter,
ouais.
Des Dragon Ball. Ouais. Moi, je rejoue en ce moment pas mal à Street Fighter 3.2.
Oui,
qui a c'est le stage d'Elena, je crois, où quand tu finis le premier round, le
tout
pont s'effondre et tu continues le combat en bas. C'est vachement bien ce genre de choses.
Les stages de Yun et Yang où tu passes de l'un à l'autre. Dans Street Fighter 3 New Generation, le stage de Ryu et Ken qui sont interchangés et quand tu as fini un round, tu passes à l'autre. Ouais. Non, c'était là tout le temps, tout à fait. Ouais.
On pourra réaliser le mode story de Street Fighter 5 où on passe du Brésil à l'Angleterre sur une moto. en temps réel grâce à la puissance de la PlayStation 5.
Cherche pas, ils ont piqué ça au film de Fatal Fury, tu peux rien faire.
Mais c'est vrai que moi franchement c'est vraiment les temps de chargement, le temps de chargement même de démarrage du jeu, genre sur Street 5, c'est terrible.
Ouais, c'est clair.
Ah, c'est terrible quoi.
J'ai refait des parties de Street et de Tekken sur PS4 après y avoir joué longtemps sur PC. Putain, ça fait mal. Hein.
Ça fait mal.
Oh là là.
Mais surtout sur une PS4 de base. Sur une PS4 de base.
Ça, c'est là vraiment des trucs quand tu joues à Street 5 et que t'enchaînes derrière sur un Street 4, la vitesse, mais c'est tu prends une baffe.
Ça, c'est terrible. Il y a autre chose que vous voudriez voir appliquer à nos jeux de baston où on manque d'imagination et on veut juste les trucs les plus basiques.
Vas-y. Voilà, on a effectivement parlé des trucs les plus basiques, mais pour de vrai, tout à l'heure, je parlais de lâcher un petit peu la bride aux développeurs et de leur permettre de l'imagination. Moi, c'est vraiment ça que je voudrais pour de vrai. Je voudrais des jeux qui combinent des trucs, en fait, pour de vrai, qui existent déjà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans Mortal Kombat, quand tu prends des coups, tu vois un peu comme dans Art of Fighting, les personnages qui vont avoir le visage chumifié, etc. Ben, moi, j'aimerais bien trouver ça, des trucs comme ça sur la licence des Street Fighter. J'aimerais bien que quand tu as un stage avec de la neige, comme sur un Virtua Fighter, les traces de neige ne bougent pas et ne disparaissent pas au fur et à mesure. Enfin, c'est des trucs comme ça qui me plairaient. Le fait que, sans que ce soit contraignant pour le joueur, quand il pleuve, tu as de temps en temps des gouttes d'eau qui viennent arriver sur l'écran, comme ça arrive de temps en temps. Enfin, des trucs qui peuvent être très simples pour de vrai et très cons, mais vraiment, en fait, qui soient là, omniprésents, en fait, qui donnent une sorte de... Enfin, retrouver, en fait, la vie qu'on avait avec les jeux en 2D, avec des sprites.
En gros, oui, tu vas pouvoir monter un peu le niveau de détail. Tu vas pouvoir avoir des dégâts permanents dans les décors, des habits qui se déchirent au fur et à mesure. C'est intéressant.
Et un truc que j'aimerais vraiment bien, qu'on a vu assez peu dans les jeux de combat et qu'on a vu plutôt ça dans d'autres licences, mais là, c'est le côté du côté musical. Un petit peu ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur Smash Bros. Ou sur des Mario Kart, quand tu avances au fur et à mesure, que tu vois la musique changer quand il se passe telle ou telle action. Bah, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir dans le milieu du jeu de combat. Pas un changement de rythme comme tu as dans Street Fighter 2 quand tu es en fin de round. Donc vraiment une vraie évolution musicale que tu n'entends pas, parce qu'il va se passer une action particulière, des trucs comme on a vu dans Capcom versus SNK, où quand tu finis d'une certaine façon un match, la musique va changer alors que tu es toujours en plein match, que le jeu est pas totalement terminé, mais tu sais déjà que tu as perdu parce que la musique a changé. Enfin, genre de trucs en fait qui viennent égayer le jeu.
Ça existe déjà dans certains jeux comme Killer Instinct par exemple, qui a une gestion de la distorsion du son qui est assez violente.
Donc ça c'est vrai que j'aime bien, et ça c'est un des aspects du jeu que j'aime bien d'ailleurs.
Moi j'ai un truc que j'aimerais bien voir, c'est alors ça va vous paraître bizarre, mais c'est du versus offline de qualité contre des IA de qualité en fait. J'aimerais vraiment, vraiment voir dans le futur, c'est l'équivalent des modes Ghost ou Phantom qu'on avait dans les Virtua Fighter, mais un truc vraiment qui va plus loin que ça, tu vois. Déjà, je crois que c'est...
Du deep learning.
Ouais, des trucs... Enfin, on lâche un peu des gros mots en mode, le big data du jeu de baston, du deep learning de ouf et tout. Et à côté de ça, il y a des gens qui essayent, et c'est des escrocs, genre Samurai Shodown, je sais pas où ils l'ont foutu, leur putain de mode, le jeu, il apprend de toi, machin, etc.
Même sur Soul Calibur, ils nous l'avaient sorti.
Mais c'est de la merde jusque-là, tout franchement. C'est grave de la merde.
Le seul vrai jeu qui a fait ça, c'est Eyes of the Robot, c'est tout.
Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi qui joue je joue énormément aux jeux de combat, mais je joue énormément aux jeux de combat avec des gens où en ligne je joue quasiment jamais tout seul contre l'IA, parce que ça a très très peu d'intérêt en général.
Alors Killer Instinct l'avait fait, je crois, où ils avaient dit je crois que c'est les seuls qui ont réussi à le faire à peu près correctement. Peut-être que Shake, je sais pas si tu l'avais joué,
je peux confirmer, mais
Dans Street Fighter 3 New Generation, l'IA était vraiment très très bien faite. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris le revirement enfin, le choix de Capcom de faire évoluer l'IA comme ils l'ont fait sur 3-2, voire 3-3, c'est encore pire. Tu prends un personnage comme Guile à la fin qui était imbutable, entre guillemets, dans New Generation, parce qu'en fait, à chaque fois que tu faisais un truc, si ça avait marché une fois, ça ne remarchait pas du tout dans le reste du match. Alors que dans Street Fighter 3-3, quand tu joues contre l'IA, en fait, il fait tout le temps les mêmes choses. Tout le temps. Donc en fait, une fois que tu as compris le pattern, c'est bon, le personnage, il n'est pas dur à battre.
Mais après, c'est peut-être parce qu'ils veulent que ce soit plus jeu vidéo et moins combat, quoi. C'est peut-être aussi ça le truc, c'est de donner des patterns reconnaissables par un joueur qui, par exemple, serait pas un joueur expérimenté, de façon à ce qu'il puisse se dire...
Ouais, mais quand tu joues en difficulté élevée, tu peux t'attendre à ce que l'IA te donne du fil à retendre.
Je suis d'accord.
Non, mais ce qui est aussi dommage quand on parle de difficulté d'IA dans les jeux de baston, c'est que, et ça c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque le SNK Boss Syndrome, c'est que la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire un adversaire invincible. C'est-à-dire qu'il voit tes coups à l'avance, qui réagit à la fin, c'est horrible. On se rappelle du mode survival de Street Fighter V, quand tu montais la difficulté, mais c'était infaisable.
Mais c'est d'ailleurs, c'est ça qui était terrible, c'est à te dégoûter du truc. C'est qu'à un moment donné, tu le sens, le palier. Il y a un moment donné où il dit tiens, à partir de là, ça va être difficile. Et là, tu comprends ce qu'il voulait dire, donc à partir de là, c'est automatique. Ouais. C'est horrible.
Mais j'aimerais vraiment, moi, qu'il y ait même au-delà de d'IA cool, j'aimerais vraiment qu'il y ait du feedback, en fait. Un peu comme Tekken Tag 2 avait fait avec leur WTF, leur What the Fuck, World Tekken Federation, où tu sais, il y avait des stats de ouf sur toi, en mode, t'as fait tant de launchers, par contre, t'as confirmé en combo le launcher que 50% du temps. Tu vois.
Il y a un peu une partie de ça dans Tekken 7, ils n'ont pas tout gardé, mais tu peux encore consulter tes stats dans Tekken 7.
Voilà, depuis une récente update,
je crois. De base ou via le DLC, du coup?
Je sais plus, c'est peut-être dans une saison après. Ouais.
Mais le truc, c'est qu'ils avaient fait ça et c'était trop stylé. Genre, il y avait le... Mais ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit pas juste un écran de, comment dire,
de statistiques.
J'aimerais vraiment qu'il y ait une emphase de ouf qui te dise...
Ouais.
Tu lances le mode training et par exemple, je sais pas, il y a un truc qui apparaît qui te dit, écoute, dans les 10 derniers matchs que t'as fait, t'as loupé 50% de tes trucs, donc je t'ai programmé une IA qui va garder 50% de... Enfin, qui va garder au hasard, en fait, tes launchers.
Mais là, faut Elon Musk sur ton jeu.
Ouais, non, mais le truc, tu vois, le pire, c'est qu'à un moment, j'en ai parlé avec Arada de ce truc-là, je crois que c'était en 2013, où on parlait justement de comment on fait pour que les joueurs, ils apprennent, etc., etc. Et il disait, alors il disait ça en rigolant parce que c'est Arada, mais il disait, non, moi, je pense qu'il faut un coach sexy pour t'apprendre à jouer, qui te dise, il faut que tu fasses ça comme ça, ça comme ça. Et à l'époque, en 2013... Moi, j'ai regardé le truc, j'étais là, genre, non, mais Arada, arrête tes conneries, on sait très bien que tu vas nous coder juste un vieux bot dégueulasse avec une fille en bikini, et en fait, ça va être nul à chier, tu vois. Mais maintenant qu'on commence à avoir vraiment des systèmes de deep learning, de machine learning, de choses comme ça...
Maintenant, on a de la vraie puissance de calcul, ouais.
Tu les trouves sur GitHub, maintenant, les trucs, tu vois, ces machins. Il y a des mecs qui te refont les graphismes de jeux avec des algorithmes qu'ils ont trouvés sur Internet, quoi.
Donc, puis en termes d'apprentissage, ce serait super intéressant, ça ferait forcément monter le niveau de jeu de manière globale. Et ce qui serait génial, c'est que ce soit couplé à une appli que tu puisses avoir par exemple sur ton téléphone mobile pour pouvoir garder pendant que tu joues à l'écran certaines données, voire que quand tu sois dans les transports en commun, que tu te refasses la liste des trucs que tu as fait ou loupé, d'essayer de comprendre là où, enfin, ce qu'il faudrait que tu apprennes à faire pour ne plus louper tel ou tel input ou d'arrêter de smasher ton bouton alors que ça sert à rien, enfin des trucs comme ça.
Mais bon, en attendant, on n'a toujours pas de replay dans certains jeux et les modes training en ligne ne sont toujours inexistants. Donc, on va devoir attendre un long moment.
Là, tu m'as fait penser à une idée de sujet, là, tu vois, comme quoi au pif.
Allez, c'est bon, note-la pour le prochain. Ouais. C'est parfait. Sorti. Bon, plus rien à ajouter sur le turfu du jeu de baston sur la next-gen.
Oui, 500€, pas plus, s'il vous plaît.
Ouais, je pense que j'ai bien peur que tu vas être déçu.
Et les sticks compatibles, par pitié, les sticks compatibles.
Ah oui, ça aussi, ça c'est ce que je voulais dire, justement.
Non, puis là, voir dans quelle mesure aussi ils vont rendre compatibles les jeux plus anciens, parce qu'on a beau dire, mais sur PC, quand tu ressors encore un vieux jeu, tu peux toujours le lancer. C'est ça vrai que plaisir. Les consoles, au fur et à mesure,
ça dépend, tu peux toujours le lancer. Il y a certains jeux avec certains DRM qui ne se lanceraient pas sur Windows 10 ou
Ça, malheureusement, on est d'accord. Voir des jeux qui aujourd'hui sont un retéléchargeable parce que tu avais juste acheté une clé, tu t'en étais pas rendu compte alors que tu avais acheté une boîte. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
Mais pour revenir à la PS5, cela dit, alors il faut revenir sur la conférence technique de Marc Cerny en mars. Il avait dit à l'époque qu'ils avaient testé alors les 100 jeux les plus populaires de la PS4 sur leur kit de dev PS5. Ouais. Il a pas donné la proportion, mais il a dit que la majorité des jeux s'étaient lancés et fonctionnaient. Donc on verra bien. Et il a dit aussi, alors il l'a pas dit pendant la conf, mais Sony l'a confirmé plus tard, tous les éditeurs de jeux qui sortent des jeux sur PS4 à partir de juillet, là le mois prochain, jusqu'à la fin de la vie de la console, ont l'obligation de les rendre compatibles PS5.
Oui, j'ai eu ça comme info aussi par un développeur français justement qui en parlait dans un thread sur le forum de Geekzone, qui disait il a abandonné son portage PS4 parce qu'en fait il est en train de bosser sur le portage Switch Xbox PS4 et il a dit bon allez la Xbox et la PS4 j'arrête. Il a dit pour des raisons monétaires et de dev. Voilà, et il y a un autre dev qui lui répondait, nous là on est en plein dans l'envoi du master quoi, et j'espère qu'on va passer, parce que si on passe pas maintenant, on devra en fait rendre le jeu compatible PS5 obligatoirement. Et ça c'est des sous en plus, c'est des dev kits en plus, c'est un truc en plus.
Surtout que je comprends... jeu qui sera compatible sur une console qui va sortir.
Je comprends le choix là de rester sur Switch, parce que quand tu vois les ventes de Switch qu'a commis le Covid-19, merci beaucoup à Nintendo, ça, là c'est absolument incroyable les chiffres, c'est la console qui déchire tout. Et j'avoue que moi ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une console comme ça que j'emmenais partout ou que je pouvais directement brancher sur un socle. En plus aujourd'hui il y a tellement de gens qui ont des Switch que quand tu arrives quelque part il y a toujours une, deux, trois, quatre, des fois plus de Switch quand t'es avec d'autres geeks, ce qui fait que tu as toujours un socle quelque part pour poser ta console, qu'il y a plein de jeux qui permettent de rendre compatible des trucs. Enfin, c'est l'outil est quand même assez incroyable.
C'est vrai. Et ce qui est aussi incroyable, c'est notre quartier libre. On va s'en diriger. Mais avant ça, petit générique musical. Le quartier libre, vous le savez peut-être même pas, c'est quand on parle de trucs qui n'ont rien à voir avec la bagarre, avec le jeu de baston. Quoique, si j'en crois ce que va me présenter, de quoi va parler le Legacy, c'est de la bagarre, pas virtuelle, mais c'est quand même de la bagarre. Alors, le Legacy.
Alors, voyons voir. Comment est-ce que je peux topper FF7 Remake ? Non, je rigole. J'avais envie de parler de Baki. Voilà, bon, vous connaissez, grand fan devant l'éternel. 20 ans que je le lis. L'un des plus, top 5 des plus grands mangas de tous les temps. Netflix s'en est rendu compte. Et c'est assez marrant de voir quand même que on est passé d'un animé qui sort comme ça, où il n'y avait pratiquement pas de promotion, à, au compte Netflix qui force maintenant en disant Baki, ça sort tel jour, à telle heure.
Oui, oui c'est tweets, vrai.
C'est présent sur... j'ai même fait un test sur un compte propre Netflix, un compte neuf en fait, qui n'avait pas d'algorithme. Et Baki était souvent présenté. Donc, c'est un produit chez Netflix qui doit performer très, très fort, ce qui est évident en fait quand on regarde. Mais les mecs au Japon, on a l'impression de... j'ai pas l'impression qu'ils comprennent en fait. Et cette saison 3, y a eu une step-up des moyens, ça se voit. Déjà, on n'a plus la 3D dégueulasse. Mm-hmm. Qui était présent dans les deux premières saisons. On a une animation qui est vraiment fluide et on a surtout la présence de doubleurs vraiment du le haut du panier. On a le doubleur de, notamment de Freezer.
Ah.
Juste pour commenter le tournoi, tu vois. Donc, quand tu commences à taper dans ces mecs-là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, la saison est excellente. On est sur 13 épisodes, donc c'est, comme, c'est les saisons Netflix.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est les saisons de 13 épisodes, des demi-saisons et ça couvre l'arc Mohamed Ali Junior. Voilà, donc Mohamed Ali a eu un fils qui veut se battre. Voilà. Et quel manga fait ça? Personne. Personne prend une légende du sport, il met son fils, et son fils, il se fait taper par tout le monde. Voilà. Ah non, il n'y a pas. Et ça commence par un tournoi en Chine, incroyable, des combats de fou. Voilà, donc je recommande. Faut mater les deux premières saisons. Et si vous êtes un vrai, vous regardez les deux premières saisons des années 90. Et si vous êtes un vrai, vous lisez les 120 tomes du manga.
Bien sûr. Alors, juste par rapport à ce que tu disais, la 3D dégueulasse dont tu parles, elle, pour de vrai, elle passe. C'est pas... Je trouve qu'il y a des moments où elle se voit, mais c'est, ça aurait, vu l'énergie qui a été mise dedans, ça aurait pu être pire. Je trouve que ça passe.
Au niveau de la 3D dans les animés, c'est vraiment low tier en termes d'implantation.
C'est vrai qu'il y en a quand même qu'on fait beaucoup mieux. Notamment, il y a Doro et Doro qui est sorti récemment sur Netflix, qui au niveau visuel, 3D, etc., est vraiment
Je dis pas le contraire, hein. Je dis ça passe. C'est pas, on a vu des trucs bien bien pires dans les années 90. Bah,
le Ghost in the Shell de Netflix qui vient de sortir.
Tu sais que j'ai toujours pas osé le lancer. Hein.
Moi non plus, j'ai juste vu une vidéo d'un type qui fait des backflips dans un escalier et j'ai cru que c'était une blague en fait.
Non, mais c'est vieux jeu sur PlayStation où les mecs musclés faisaient de la merde là.
J'ai vu ça, donc voilà. Non mais je suis d'accord avec Legacy. Regardez Baki, c'est sympa. Non,
moi, alors TMDJC, tu gardes la parole puisque tu vas nous parler d'une série aussi.
Oui, alors tiré d'un bouquin, enfin deux bouquins d'ailleurs de Philip K. Dick, c'est Le Maître du Haut Château, The Man of High Castle dans sa version Amazon entre guillemets, parce qu'il vous faudra Amazon Prime pour pouvoir le voir si je dis pas d'annerie. Je sais pas si c'est diffusé ailleurs.
C'est ça. Non, c'est Amazon Prime.
C'est bien ce qui me semblait. Franchement, je m'attendais à rien en le lançant parce que je crois que ça fait déjà 4 saisons que c'est là et moi je l'ai démarré il n'y a pas longtemps, j'en suis à la saison 3 maintenant. On se mate ça avec FQPEH et c'est j'aime beaucoup le choix, enfin les choix qu'ils ont fait par rapport au bouquin. J'aime beaucoup le choix des acteurs. J'aime bien le fait que les Allemands parlent allemand, ce genre de choses. En fait, c'est franchement une série qui est moderne dans tous les sens du terme, tout en s'appuyant sur un historique qu'on connaît ou qu'on découvre, parce que l'histoire très rapide, le pitch, c'est que en fait on découvre le monde aux États-Unis dans les années 60, sauf que les Allemands et les Japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale et ça démarre de là. Et puis après, je vais pas vous vendre le truc parce qu'il se passe vraiment plein de trucs très intéressants. Il y a un petit peu d'ésotérisme dedans et le point de vue narratif de qu'est-ce qui serait passé si les Allemands avaient gagné, enfin si les nazis d'ailleurs avaient gagné, est vachement intéressant parce que c'est pas les mêmes années 60. Alors évidemment c'est logique, mais c'est pas les mêmes années 60 qu'on a eu avec les Américains. Les progrès technologiques sont pas forcément les mêmes et quand on sait ce que l'armée d'Hitler avait sous le coude, il y a une vraie logique dans les choix qui ont été faits. C'est vraiment très intéressant et voilà, je conseille fortement, je passe un très bon moment et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de raccrocher avec vous là pour aller regarder la suite.
Très bien. Pour ma part, je vais vous parler d'un jeu, c'est un jeu Zachtronix. Vous connaissez les jeux Zachtronix?
C'était les petits, les ancêtres des Game Boy, hein, c'est ça?
Non, pas du tout. Alors, Nico, il connaît, évidemment, mais...
Non, ça me dit rien de spécial, en plus.
Zachtronix, pas du tout. Non. Alors, en fait, c'est une boîte, enfin, c'est une boîte de jeux indés, qui ne fait que des jeux indés qui prennent la tête de ouf. C'est eux qui ont fait... Oh putain, attends, je suis obligé d'aller voir parce qu'en plus, leurs jeux, ils ont des noms à la con. En gros, leurs jeux, c'est souvent des jeux où tu fais de la programmation, où t'as des trucs. Notamment le plus connu, je pense que tu dois le connaître celui-là, Nico, c'est Opus Magnum.
Ah ben oui, d'accord. Non, mais pendant que tu parlais, je suis allé voir la fiche Wikipédia. Mmh. Et oui, Opus Magnum, j'ai fait.
Voilà, Opus Magnum, ouais. Exapunks, Shenzhen.io,
etc. Donc, je vois.
Voilà, beaucoup de jeux comme ça. Alors, ils ont pas mal. La plupart de leurs jeux, c'est vraiment des jeux en gros où tu codes. Genre Shenzhen.io, c'est un jeu dans lequel tu fais des puces électroniques et en gros tu codes à l'intérieur du jeu, mais avec du vrai langage de programmation, hein, du texte, du clavier. Tu codes les puces. Et en gros, le challenge, c'est que tu dois réussir à rester dans un certain budget. Opus Magnum, c'est de l'assemblage, on va dire, d'éléments mécaniques de façon à obtenir un résultat.
Tu fais un peu de l'alchimie, ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est des jeux ultra prise de tête, c'est des casse-têtes assez avancés. Et ils ont sorti un jeu qui n'est absolument pas ça, donc du coup, j'y ai joué, qui s'appelle Elisa, et c'est un visual novel. Ah. Donc ouais, c'est très étonnant, mais en gros c'est un visual novel qui, pour faire le scénario très rapidement, on joue une ancienne développeuse qui devient proxy pour une IA de conseils psychologiques. Et quand on dit proxy, c'est-à-dire en gros elle s'assoit dans un fauteuil et en fait elle dit ce que l'IA lui dit de lui dire de façon à ce qu'il y ait un contact humain entre l'IA et le patient.
D'accord.
Donc déjà de base ça part bien. Et en gros c'est vraiment un très 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 bon jeu sur justement la technologie, l'intrusion de la technologie, mais aussi la santé mentale, le burn-out, l'abus, enfin les différentes visions de technologie. Il y en a certains qui ont des visions, on va dire, très optimistes, d'autres pessimistes, certains vraiment très barré, d'autres pas, et sur comment en fait tout ça s'insère dans notre société, mais aussi dans nos psychologies. Et donc voilà, c'est vraiment j'ai passé un excellent moment. C'est pas long, ça dure 5 heures, c'est très posé, ça a pas du tout l'image d'un visual novel classique avec comme on le voit souvent avec je sais pas trop comment dire, mais c'est assez froid.
Des waifus.
Ouais, pas trop waifu, là, c'est pas du tout waifu. C'est assez froid, mais en même temps, c'est très bien. Quoi. Voilà.
Quelle plateforme ?
Il est sur Switch et sur PC.
D'accord.
Donc voilà, je conseille. Il y a de multiples fins possibles, je crois, dont une très mauvaise. Les persos m'ont vraiment plu. Je vous conseille. Puis si vous aimez la programmation ou la prise de tête, vous pouvez regarder les autres jeux de Zachtronix. C'est vraiment très bien.
Et, tu me l'as vendu.
Vous pouvez aussi commencer pour les casse-têtes par Opus Magnum, qui est, je crois, le plus accessible. Voilà, c'est tout pour moi. Et le suivant, c'est Oni.
C'est moi, oui.
On va chez Amazon, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On va rester chez Amazon et on va rester un peu dans la technologie, puisque nous, pendant le confinement, en fait, on a commencé à regarder des séries qu'on n'aurait pas forcément regardées dans d'autres circonstances. Et on a découvert une série qui s'appelle Tales from the Loop. Et le concept est assez intéressant parce que la série elle-même est basée en fait sur les dessins d'un artiste suédois qui s'appelle Simon Stålenhag.
Ah oui, je vois.
Que vous connaissez peut-être pas forcément, bon, qui s'est fait un petit nom sur internet, mais si vous tapez son nom, vous avez forcément déjà vu un de ses dessins sur internet, sur les réseaux sociaux ou autre. En gros, le type dessine souvent des natures mortes qui représentent des robots géants abandonnés dans des champs, etc., des vieux robots en décrépitude. Et ils ont créé, ça a inspiré apparemment des producteurs d'Hollywood qui lui ont dit, bon, on va me faire une série télé. Et donc le scénario, c'est que ça se passe dans une petite ville de l'Ohio, donc un peu perdue dans les États-Unis, une ville un peu champêtre, qui s'est construite autour d'une expérience un peu comme le CERN, ce qu'ils ont appelé le loop, et dans lequel ils font des expériences qui jouent un peu avec les lois de la physique, où ils font flotter des objets, ils remontent un peu le temps. C'est un peu bizarre ce qu'ils font là-bas. On nous l'explique d'ailleurs jamais vraiment dans la série. On suit en fait l'histoire de différents personnages. Donc les 8 épisodes, hein, c'est pas hyper long, ça se regarde assez bien. Les 8 épisodes ont l'air d'être un peu déconnectés au départ, et on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance que tout le monde est un peu relié les uns avec les autres, et qu'il y a un lien toujours autour de ce loop qui les unit. Et bon, alors c'est pas une série d'action, c'est très contemplatif évidemment, c'est très très lent, ça prend le temps d'installer son histoire, et on a toujours un moment qui se concentre sur une structure en particulier. Et non, c'est très intéressant, c'est assez triste, Et c'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à rien quand je l'ai lancé. Et j'ai vraiment apprécié.
Ouais, ça m'a beaucoup plu aussi, moi.
Ouais.
Et on va terminer avec Sheik. De quoi tu vas nous parler? Parce que je crois que j'ai juste marqué des trucs te concernant.
On s'en fout.
Ouais, non, mais de toute façon, j'avais complètement oublié qu'il y a le quartier libre. Donc, j'avais complètement oublié de préparer un truc. Donc, ouais, rapidement, je vais parler juste 5 albums que j'écoute beaucoup en ce moment. D'abord, il y a le dernier Body Count, Carnivore, qui est le groupe de métal de Ice-T. Ice-T, l'acteur très connu, rappeur, acteur dans New York Unité Spéciale, qui du coup a un groupe de métal, ce que peu de gens savent. Et qui ont sorti leur dernier album, qui parle toujours un peu de ce qu'ils parlaient avant dans le rap, sujets très sociaux, avec même un featuring avec la chanteuse d'Evanescence, sur un titre en hommage à Nipsey Hussle. Ensuite, que j'écoutais beaucoup...
C'est très étrange jusque-là.
Ah ouais, non, mais t'inquiète pas, ça, on est qu'au début. Après, on a Code Orange, Underneath, qui est lui, par contre, un groupe de metalcore, qui a sorti un album assez sympa, qui sort un peu de ce qu'il faisait avant, du hardcore un peu débile, qui essaie d'un peu de mettre un peu un côté industriel et faire les choses un peu mieux et qui change un peu au niveau de production. Ensuite, que j'écoute beaucoup, Running de Roddy Out, un groupe de punk hardcore de Los Angeles, qui revient après que leur chanteur ait fait de la prison, après une pause de quasiment 5 ans, avec un album toujours qui tape un peu fort. Un autre groupe de Los Angeles, Xibalba, Años en Inferno, qui est aussi un groupe de hardcore qui s'inspire beaucoup de... C'est des Mexicains, donc ils s'inspirent beaucoup d'un folklore inca. Eux ont une approche très death metal à leur musique, donc c'est assez intéressant de voir comment... mélange deux styles, le punk hardcore qui reste un style assez urbain avec le death metal qui est complètement autre chose. Et dernier album que je faisais beaucoup tourner, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, le dernier run de Jules, RTJ4, qui le groupe de rap de LP et Killer Mike, qui avait déjà de grosses carrières solo et qui ont joint leurs forces pour sortir ça. Et encore un album qui reste toujours très fort, qui est un peu plus dark au niveau production, mais qui est toujours blague sur les beats et toujours très très politique, avec des featuring de 2 Chainz, de Zach de la Rocha, il y a du Josh Homme, donc il y en a vraiment pour tout le monde sur cet album. Du Pharrell aussi, donc ouais.
Ah ouais, carrément.
Si je devrais en recommander un, c'est celui-là, quoi. Okay. Un album de rap, ah, Run de Jules Fort.
Je peux rajouter un album de musique vite fait, alors, pour qu'on y est.
Vas-y. Enfin, c'est pas moi qui...
Moi, je conseille le dernier album de The Weeknd, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, ouais. Qui d'habitude fait plutôt du R&B alternative. Là, il tape un peu dans l'électropop et le dernier album est peut-être plus accessible que ce qu'il fait en temps normal. Il a beaucoup tourné chez moi aussi, voilà, je conseille.
Conseille aussi, ouais. J'allais le mettre, mais...
Voilà.
Pas un mot pour le dernier Kenji Girac. Le mec, il a pris des risques, hein. Le mec, il a pris des risques. Il a dit, j'ai mélangé la musique andalouse avec la musique gypsy.
Ah, c'est complètement con.
Le mec prend des risques et vous n'êtes pas là au rendez-vous. Non, mais vous étonnez après d'avoir de la soupe.
C'était le pif de l'actu du mois de juin 2020. Merci à tous d'avoir été présents pour cette émission. Merci le Gassi. Oui. Merci Oni.
Merci
Shake.
Pou 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 pou.
Et merci TMDJC.
Merci à tous.
On se retrouve probablement post-Evo online, lol, aux alentours du mois d'août ou du mois de septembre 2020, dès qu'il y aura eu un petit peu plus d'actu. Je pense que tout va redémarrer de toute façon d'ici là.
En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et puis bah, continuez à jouer à des jeux de baston, de préférence ceux qui ont du rollback. C'était donc le pif de l'actu. Merci à tous. Merci à Yann qui s'est occupé du montage de ce podcast et à bientôt sur Bagropoint. Salut.
Des bisous.
Salut.
On va passer aux chroniques. Jingle, 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 jingle.